Bonjour à tous et bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris que plusieurs d'entre vous connaissent bien. Le département d'éthique publique du Centre Sèvres a souhaité proposer cette année, dans le cadre de ces différentes propositions, une réflexion et une formation sur les enjeux de défense dans le monde contemporain. Alors certains pourraient peut-être s'étonner que dans un tel lieu où l'on enseigne d'abord la philosophie, la théologie, on se préoccupe de ces questions. Mais ceux qui connaissent les jésuites sont peut-être moins surpris de trouver cette proposition en ce lieu. Il y a, je dirais, dans les gènes de la compagnie, dans son intuition spirituelle fondatrice qui a irrigué jusqu'à aujourd'hui son action, l'intérêt, le souci, je dirais, des frontières. Frontières géographiques, bien sûr, frontières intellectuelles et culturelles, frontières, on pourrait peut-être aussi parler de périphérie, pour reprendre le vocabulaire du pape François, où se posent des questions d'identité et de lien social. En effet, nous savons, si dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son nom, eh bien ce n'est jamais en tant qu'individu isolé, mais c'est toujours comme membre d'un peuple, et pour le bonheur de l'ensemble de ce peuple auquel il est renvoyé. Notre espérance chrétienne, elle n'est donc pas seulement individuelle, elle est aussi collective. Et nous savons que derrière les questions politiques, les questions économiques, les questions internationales, eh bien, il y a des questions de sens, des enjeux éminemment spirituels. Alors, réfléchir au thème qui nous rassemble aujourd'hui n'est donc en rien, je crois, un exercice formel. Chacun sait ici qu'on ne s'approche pas impunément des questions qui touchent à l'usage de la force, aux règles de droit, au discernement éthique, à l'évolution de la notion de sécurité et à son coût, à la décision politique. Il s'agit bien de l'homme, du militaire, du politique, du citoyen, parfois du croyant, de ce qu'il est amené à vivre, à décider, à exécuter, à assumer. Il s'agit bien du vivre ensemble, des menaces potentielles ou avérées, des représentations du monde, de la compréhension des intérêts de chacun, de ce qui mérite qu'on se batte et donc parfois qu'on meure, et des conséquences collectives, des choix et des décisions. Rien d'étonnant dès lors qu'un tel sujet qui concerne l'homme et l'avenir de la communauté humaine puisse intéresser le département d'éthique publique des facultés jésuites de Paris. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Centre Sèvres propose de réfléchir à ces questions. Déjà en 1999 et 2000 avaient eu lieu deux séminaires ici, séminaires de recherche sur les enjeux politiques et éthiques d'une Europe de la défense. Plus récemment, en 2008, nous avions organisé un colloque sur l'emploi des forces militaires sur le terrain et ses enjeux éthiques. Aujourd'hui, notre réflexion se veut plus large encore. Les évolutions géopolitiques du monde contemporain mettent en lumière de nouveaux enjeux de sécurité et de défense pour les nations et les populations, qu'il n'est pas possible d'ignorer. Des représentations et des conceptions anciennes ont fait leur temps, ont cessé de produire du sens et de répondre aux enjeux du moment. Des questions anciennes se posent différemment, de nouvelles questions apparaissent. Des menaces nouvelles obligent les responsables politiques et militaires à réfléchir aux ajustements nécessaires dans les systèmes de défense et à anticiper l'avenir. Dans une période de grande incertitude internationale comme celle que nous connaissons, mais aussi de récession économique et de cohésion sociale fragilisée, comment faire face aux enjeux importants de sécurité ? Alors, pour réfléchir à ces questions, nous proposons donc ce cycle de 5 matinées, le samedi matin, de 10h à midi, avec des spécialistes, experts en relations internationales, en géopolitique, militaires, journalistes, pour permettre un tour d'horizon précis des questions de défense aujourd'hui. Vous avez pu découvrir sur le site internet du Centre Sèvres ou sur le programme ou les tracts, les thèmes que nous aborderons durant ces cinq matinées, je vous les rappelle. Dans un instant, Louis-Marie Clouet, qui a organisé avec moi ces matinées, nous introduira au thème de ce matin « Le monde change, la guerre aussi ». Et il nous présentera nos deux intervenants que je remercie déjà de leur disponibilité. Samedi 14 décembre, deuxième rencontre, l'armée française aujourd'hui, son état, ses missions, ses défis. Samedi 11 janvier, nouvelles technologies, nouvelles questions éthiques en matière d'armement, en matière militaire. Samedi 8 février, l'actualité de la notion de guerre juste. Et nous terminerons le samedi 8 mars, où en est l'Europe de la défense. Voilà, nous espérons bien sûr que vous pourrez participer à l'ensemble des matinées de ce cycle, mais vous le savez aussi qu'il est possible de ne venir qu'à celle qui vous intéresse ou celle à laquelle vous pourrez participer. La manière donc de procéder sera simple durant ces matinées. Nous prendrons le temps d'écouter nos invités, une demi-heure environ chacun, puis nous ouvrirons le temps de la discussion et du débat ensemble pour terminer à midi. Voilà, je laisse sans plus attendre la parole à Louis-Marie Clouet qui va nous introduire à la thématique de notre première matinée. Merci de votre présence ce matin et bonne matinée.
Merci Père Boédek de me passer la parole. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous introduire à cette première séance qui va traiter de cette question que nous avons posée ainsi. Le monde change, la guerre aussi. Alors, en fait, il y a un paradoxe puisque on a l'impression que la guerre est de moins en moins présente et violente. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur un dossier qui a été présenté dans la revue Politique étrangère que dirige Dominique David sur les guerres de demain. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, on a de moins en moins de chances de mourir dans une guerre. Au début du XXIe siècle, on a 0,4% de chances de mourir dans une guerre, mais on risque plus de mourir de maladie ou de pandémie à 91%. En fait, cela reflète surtout qu'il y a de moins en moins de guerres interétatiques, de guerres entre États. Par contre, il ne faut pas se leurrer, la violence est toujours présente, mais de plus en plus dans des guerres infra-étatiques ou intra-étatiques. Donc la violence n'a pas disparu, mais elle pose vraiment la question de la guerre. Dès lors, on pourrait tenter de se dire, finalement, le monde va mieux, le monde est moins conflictuel, mais de nouvelles menaces apparaissent. On a vu ainsi la prise en compte plutôt des questions de sécurité, la montée du terrorisme, la montée aussi des prises d'otages, avec aussi des interventions qui ne sont plus décrites comme des guerres, mais des interventions extérieures pour rétablir la paix. Dès lors, comment comprendre la guerre, comment comprendre celle-ci dans un environnement où finalement elle ne dit plus son nom? Alors, on pourrait être aussi un peu sceptique par rapport à un paysage tout à fait rose sur la disparition des guerres interétatiques, mais la violence en effet n'a pas disparu. On le voit bien en Afrique, où des logiques de prédation, de conflits intra-étatiques, de violences sont toujours présentes. On pense à la République démocratique du Congo. On l'a vu aussi dans le Sahel avec notamment l'intervention au Mali de la France pour contrer la montée de groupes à la fois tribaux terroristes qui sont en train de contester l'état faible du Mali. Donc une grande hétérogénéité des logiques de puissance qui ne sont plus entre États, mais qui se jouent désormais à un autre niveau beaucoup plus local et beaucoup plus complexe. Autre point, les conflits sont peut-être en germe toujours, on le voit en Asie notamment, où les États se réarment, où la Chine augmente fortement son budget de défense, et les autres pays de la région aussi. Donc on n'est sans doute pas non plus, on ne peut pas augurer non plus qu'il n'y aura plus de conflits entre les États. Alors, pour discuter ces questions, finalement, pour discuter la question de quelle guerre au XXIe siècle, quelles leçons peut-on tirer, si des leçons peuvent être tirées des conflits passés et des interventions militaires, je pense notamment à l'Afghanistan, plus proche de nous, à la Libye, au Mali, mais aussi à la non-intervention en Syrie des puissances occidentales, et quel avenir pour la guerre? Dès lors, je me permets de passer la main à nos spécialistes qui vont nous apporter, je n'en doute pas, des éléments de réponse ou de réflexion tout du moins. Et je vais rapidement vous les présenter. À ma gauche, Pierre Servant, vous êtes lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre.
Colonel.
Colonel maintenant. Oui, félicitations. Et spécialiste des conflits et de l'armée. Vous avez été porte-parole du ministère de la Défense de 1995 à 1997. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages politiques et historiques sur les questions des conflits et de la guerre. Je citerai notamment « La force de convaincre » et « Les guerres modernes racontées aux civils ». Et vous intervenez régulièrement dans les médias et dans des cercles de réflexion sur ces questions de conflictualité et ces questions militaires. Dominique David, tout à droite. Dominique David est directeur exécutif de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, depuis 2006. Après avoir dirigé son département d'études de sécurité, il est aussi rédacteur en chef de la revue Politique étrangère, et ses recherches et publications sont consacrées aux questions stratégiques, aux problématiques de défense française et européenne. Et ainsi, vous avez notamment dirigé ce dernier numéro de Politique étrangère, le dossier consacré aux guerres de demain. Sans plus attendre, je vais passer la parole à nos spécialistes. Donc, dans un premier temps, à Dominique David, et ensuite Pierre Servent prendra la parole. Merci beaucoup pour votre attention, Dominique. C'est à vous.
C'est bon, là. Oui. Merci beaucoup, François. Merci, François. Merci, Louis-Harry. Si je comprends bien, mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, on m'a demandé d'ouvrir la séance par quelques sonores lieux communs sur les conflits et la guerre. Et puis, Pierre Servent dira des choses plus précises sur la mécanique des conflits, je suppose. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon ordre pour vous réveiller. Je pense que le son du canon aurait été mieux en début de séance. Mais enfin, je vais faire mon possible pour le faire avec des idées générales. Alors, je voudrais regrouper ces idées générales autour de cinq grands ensembles de remarques. Dernière petite remarque préliminaire, je vais parler de la guerre sans donner une définition. Il y a des débats entre intellectuels, politologues sur ce que c'est que la guerre, etc. Si vous voulez, on y reviendra dans le débat. Là, je vais parler de conflit armé, en mélangeant en quelque sorte la catégorie guerre et la catégorie conflit armé. Alors, ma première remarque, et vous allez voir, je commence très large avec une sorte de tactique de l'entonnoir, ça va se réduire après, et je ne suis pas sûr de vous apprendre beaucoup de choses, au moins au début. Ma première remarque, elle est très large, elle essaie de poser le cadre. Nous sommes dans un monde qui est balancé ou qui est écartelé entre une double dynamique, là je vous apprends rien, une dynamique d'ouverture et une dynamique de fermeture. Dynamique d'ouverture, c'est bien connu, c'est la mondialisation, la circulation de l'ensemble des biens, des armes, des images, des idées, etc. Et la dynamique de fermeture, c'est que le monde n'est pas toujours aussi optimiste qu'on le voudrait. Cette mondialisation a des effets en retour. Elle, quand on ouvre les portes, on a froid et on essaie de refermer les fenêtres. Et à cette première dynamique d'ouverture s'oppose une dynamique de segmentation, de fermeture, de redéfinition d'identité de la part de beaucoup de communautés humaines. Dans ce cadre-là, je voudrais souligner deux ou trois facteurs qui me paraissent importants pour parler de l'évolution des conflits. Le premier facteur, c'est que nous assistons depuis une vingtaine d'années, bien entendu, à l'éclatement du système de la puissance tel que nous l'avons connu dans le passé. Alors, je ne vais pas vous reparler de la bipolarité, il y en a un petit peu marre depuis le temps qu'on proclame sa disparition. Mais disons qu'en gros, la bipolarité, ou ces quelques décennies de relations internationales relativement fixes que nous avons connues, était un système de la puissance qui déterminait ou stabilisait bon nombre de conflits internationaux. Ce système a disparu. Et il donne lieu à, bien entendu, la définition ou la demi-définition de nouveaux rapports de force. Pire que cela, ou mieux, ça dépend du point de vue dont on se place, où on se place, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un autre lieu commun, c'est en gros à la disparition de 3 ou 5 siècles, ça dépend quelle est l'école historique à laquelle on se raccorde, de 3 ou 5 siècles de domination des puissances occidentales. De domination économique, bien entendu, de domination militaire, de domination politique et de domination idéologique. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. C'est bien entendu le changement de pied de la puissance qui est déterminé par l'émergence de ce qu'on appelle les émergents.
Tout ça détermine naturellement de nouveaux rapports de force. Le problème, c'est que si on les connaissait, ça irait mieux pour les déchiffrer. On les connaît pas encore. Deuxième remarque, toujours dans cette première ensemble de remarques sur ce système de la puissance. Ce à quoi on assiste aussi, c'est à un éclatement de la notion même de puissance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le temps où on pouvait lire, par exemple, la puissance américaine comme une puissance globale, ou la puissance française du XIXe siècle, c'est-à-dire à la fois une puissance économique, diplomatique, politique, militaire, culturelle, j'en oublie naturellement, ce temps est vraisemblablement clos. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, sont une énorme puissance avec une distance dans certains domaines technologiques, culturels, militaires, etc., qui est une distance énorme vis-à-vis des suivants, mais ils ne représentent pas une capacité de puissance globale comme on pouvait identifier dans les siècles précédents, une puissance déterminante à peu près dans tous les domaines. Il est vraisemblable que dans les décennies à venir, bien entendu que les puissances ne vont pas disparaître, mais on va en connaître plus, et elles seront sans doute des puissances sur des segments géographiques particuliers, par exemple des puissances régionales, ou des puissances de niche, c'est-à-dire sur des thématiques particulières, des thématiques technologiques, des thématiques militaires, etc. Enfin, troisième sous-remarque, les États sont toujours, bien entendu, la référence des relations internationales, mais ils sont sans doute un peu moins la référence qu'ils l'étaient il y a quelques décennies. Ils sont à la fois très présents et affaiblis. C'est pas la peine de proclamer que les États ne gouvernent plus rien. À chaque fois qu'il y a une crise internationale, c'est auprès des États qu'on vient pleurer. Qu'il s'agisse d'une crise militaire, qu'il s'agisse d'une crise bancaire, qu'il s'agisse d'une crise de sécurité, etc., c'est toujours la sonnette des États qu'on vient de tirer, ce qui prouve bien que les États ont encore la capacité de prendre des décisions et qu'ils ont encore une capacité centrale. Mais on ne peut pas non plus nier que leur surface se soit quelque peu rétractée ou affaiblie. D'abord parce qu'il y a des États qui sont en état de pourrissement avancé, si je puis dire. J'ai pas besoin de citer des exemples dits d'espace, par exemple, en Afrique subsaharienne. Hein, c'est, hélas, l'exemple le plus simple à citer. Et puis parce que la mondialisation, la transnationalisation des relations internationales a affaibli aussi la capacité politique de ces États de décider. Tout ça a beaucoup de conséquences, mais en particulier deux. Premièrement, il n'y a plus de géographie globale des conflits. Il y avait une géographie globale sous la bipolarité. Hein ? Il y avait les conflits entre superpuissances qui étaient bloquées, il y avait les conflits par proxys, comme on disait, c'est-à-dire les conflits de clientèle. Par exemple, le monde occidental et le monde soviétique se battaient par acteurs interposés au Vietnam, etc. Il y avait une sorte de géographie globale des conflits. Aujourd'hui, il y a plusieurs géographies des conflits. Il y a une éventuelle géographie globale, mais il y a des géographies régionales, il y a des géographies sous-régionales, locales, etc. Deuxièmement, les acteurs du système international et donc les acteurs des conflits se sont multipliés. Ça n'a jamais été seulement les États. Mais disons qu'au XXe siècle, on s'était habitué à penser que c'était majoritairement les États. Ça peut être toujours les États, bien entendu, mais c'est de plus en plus souvent. Et au fur et à mesure que ces États s'affaiblissent et qu'ils contrôlent moins leur propre espace politique, ça peut être des entités sub-étatiques, des communautés, des ethnies, des regroupements religieux, tout ce que vous voudrez, vous voyez ça tous les jours à la télévision. Ceci étant aggravé du fait que la diffusion technologique dote aujourd'hui des communautés humaines de plus en plus limitées mais de plus en plus nombreuses, d'une capacité d'action sur le système. Après tout, si je veux caricaturer, le 11 septembre 2001, c'est une bande d'une cinquantaine de démons qui rendent absolument fou, qui rendent absolument folle la diplomatie américaine, c'est-à-dire la première puissance du monde pendant une dizaine d'années. C'est un résumé un peu spectaculaire, mais c'est bien ça qui, historiquement, s'est passé quand même. Et rendre fou la première puissance du monde, c'est extrêmement dangereux. comme vous le savez, où ça peut être extrêmement dangereux. Autrement dit, ma première remarque consiste à dire, même si ça vous apparaît un peu abstrait et compliqué, on concrétisera ça tout à l'heure si vous le voulez bien, c'est que nous sommes en face d'un système qui se déconstruit. Comme tout système qui se déconstruit va se reconstruire, mais on ne sait pas bien selon quelle logique. C'est ça notre problème. Deuxième remarque, on se bat, pourquoi ? Les motifs neufs s'ajoutent aux motifs anciens et ils ne manquent pas. J'ai essayé d'en sélectionner quelques-uns, mais bien entendu, les raisons de se battre et d'utiliser la violence sont hélas infinies. Je vous en donne 5 ou 6 exemples. On peut, dans le monde d'aujourd'hui, se battre pour affirmer son identité ou réaffirmer son identité ou recréer son identité face à des sociétés que le grand vent de la mondialisation a trop ouvertes, trop déstructurées, rendues insaisissables. C'est ce que les distingués chercheurs de sciences politiques appellent les entreprises identitaires. Et en quelque sorte, là, la violence ou l'usage de la violence est dans une dimension définitionnelle. Vous vous définissez en tant que collectivité, en tant qu'individu éventuellement, mais en tant que collectivité en utilisant la violence. Deuxième type d'explication, vous pouvez profiter de la déstructuration des sociétés pour y affirmer votre leadership, votre puissance. Là, c'est ce que j'appellerais une sorte de violence d'opportunité. Vous saisissez le processus de défaisance, comme on dit quand on est moderne, le processus de défaisance, de déconstruction d'un certain nombre de sociétés pour y affirmer votre leadership, votre puissance. Troisième type d'explication, vous pouvez recourir à la violence armée pour affirmer votre contrôle de la population ou votre contrôle d'un certain nombre d'espaces critiques. Contrôler les populations, c'est un élément fondamental de tout conflit armé et de toute guerre. Je me permets de vous signaler que ça revêt un sens de plus en plus nouveau, même si ce n'est pas une rupture fondamentale, avec les ensembles des tendances démographiques de notre monde. Vous connaissez les tendances circulantes, si je puis dire, transhumantes, avec les phénomènes de migration, mais le phénomène le plus important est vraisemblablement celui de l'urbanisation. La concentration d'énormes métropoles urbaines est un des problèmes fondamentaux qui se présentent devant nous pour les décennies à venir. C'est un problème de sécurité absolument fondamental. Donc le contrôle de ces populations dans des ensembles urbains de plus en plus déstructurés va devenir un enjeu de sécurité fondamental. Quand je parle de contrôle d'espace, je parle évidemment du contrôle des trafics correspondants. Une grande partie de ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui est liée aux besoins de contrôle de cet espace, encore que ce soit ça relève de processus de contrôle d'espace qui nous sont, à nous occidentaux, habitués aux frontières, aux États, etc., très largement, nous avons beaucoup de mal à le comprendre, mais contrôle d'espace, y compris dans des espaces mouvants, dans des frontières mal définies, est un enjeu absolument majeur de ces conflits. Bien entendu, on peut se battre aussi, raison suivante, pour le redécoupage de zones d'influence. Ça vous paraît peut-être old fashioned, c'est-à-dire pas à la mode, ça existe toujours. Pensez à la relation de la Russie avec l'ancien espace soviétique. Pensez aux jeux de l'Inde et du Pakistan en Afghanistan. Pensez aux jeux de la Turquie, plus largement dans le Moyen-Orient. Pensez aux jeux de l'Iran, etc. Donc, c'est vrai que ça a l'air peu à la mode, le contrôle de zones d'influence géographique pour les États, mais ça existe toujours, et croyez-moi, avec l'émergence des émergences, c'est un thème qui ne risque pas de disparaître. Raison suivante de se battre, l'appropriation des ressources. Alors ça, l'appropriation des ressources, naturellement, c'est un des plus grands classiques du conflit armé. Je me permets de vous signaler quand même que, avec la problématique énergétique, réimposée à un autre niveau par les émergents, bien sûr, qui ont besoin de se développer, avec la problématique alimentaire qui nous est imposée ou suggérée par les 9 ou 10 milliards d'habitants de la planète vers 2050 ou 2060, qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas les moyens de nourrir avec la production agricole et industrielle actuelle, ou avec l'appropriation future ou les problèmes futurs d'appropriation des technologies, la problématique de l'appropriation des ressources devient importante. Pourquoi est-ce que je parle des technologies? Ben, écoutez, parce que à longueur de temps, on nous ressasse que la définition technologique de la puissance est importante. Donc j'ai du mal à imaginer que d'ici quelques décennies, l'accès à ces technologies ne soit pas un enjeu de conflit, ne soit pas un enjeu de sécurité entre les entités politiques. C'est absolument impossible. Pour le moment, ça se passe de manière feutrée, de manière soft, comme on dit quand on est moderne, ça pourrait se passer de manière plus hard dans l'avenir. J'ajoute à ces raisons classiques deux ou trois remarques. La première, c'est qu'il y a aussi des conflits dont les modalités reposent sur la nécessité de contourner une trop grande force, autrement dit de contourner la force du fort trop fort. Quand vous voulez être méchant avec les États-Unis, par exemple, et que vous êtes un petit ou un moyen, vous n'allez pas avoir la bêtise de Saddam Hussein qui les défie sur le champ de bataille du désert, hein, parce que ça dure 3 semaines, ça dure 3 jours ou ça dure 3 heures, mais on connaît le résultat. Non, vous contournez la puissance. Et vous faites quoi? Ben, vous faites le 11 septembre, tout simplement. Autrement dit, il y a des modalités d'usage de la violence qui sont dictées par le fait qu'un certain nombre de très grandes puissances militaires ont une telle concentration de puissance qu'il ne faut pas les affronter de face, mais il faut les contourner. Et à ce moment-là, on recherche quelles sont leurs vulnérabilités particulières et on attaque ces vulnérabilités. Et ces vulnérabilités ne sont naturellement pas sur le champ de bataille, puisque ce champ de bataille, on le maîtrise absolument de manière totale. Deuxième remarque, il peut y avoir aussi des conflits qui viennent de notre volonté à nous, puissance militaire, de stabiliser un certain nombre d'espaces. En réalité, le terme de stabilisation, dont on ne sait pas ce qu'il veut dire, et qu'on emploie dans la littérature stratégique et politique de manière extrêmement redondante depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ce terme de stabilisation représente de notre part une sorte de fantasme, c'est-à-dire que nous autres puissances technologiques développées, riches, vieilles, etc., nous avons une grande peur, c'est la déstabilisation. La déstabilisation chez nous, évidemment, mais la déstabilisation dans les zones proches. Et le principal argument qui est utilisé au service de la justification de l'emploi de nos forces militaires, c'est la stabilisation d'un certain nombre de réseaux. Enfin, et on n'en parle pas parce que c'est pas très propre de le dire, l'une des raisons les plus traditionnelles et les plus récurrentes de l'entreprise guerrière, et les militaires le rappellent souvent, à la place des civils qui n'osent pas le faire, c'est évidemment le plaisir, la passion et la pulsion. Le plaisir personnel ou social, le plaisir individuel ou collectif de l'usage de la violence. L'agressivité, et l'agressivité concrétisée dans l'usage de la violence armée, est une des plus anciennes modalités de définition de la vie humaine et de la vie collective. C'est triste à dire, et puis c'est surtout un lieu commun, et puis je ne vais pas plus loin parce que je ne suis ni psychologue ni psychanalyste. Mais il faut garder, bien entendu, cette réalité en tête, qui nous est démontrée non seulement par l'agressivité, mais par la difficulté d'en sortir. Vous savez qu'il y a des processus qu'on appelle de DDS, désarmement, démobilisation et Pierre, aidez-moi. Oui, bon, bref, on va le retrouver. Des processus qui ont été mis sur pied par les ONG, par l'ONU, pour démobiliser les milices, etc. Croyez-moi, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas d'emploi à proposer aux gens qui vivaient sous l'uniforme depuis des années, mais aussi parce que psychologiquement, c'est extrêmement difficile de passer du statut de milicien au statut de civil et de citoyen, voire la Libye et ce qui s'y est passé hier. Donc, à la fois des raisons extrêmement anciennes et des raisons pas tout à fait nouvelles, mais réinterprétables, si je puis dire, de se battre. Troisième remarque, ne vous en faites pas, il n'y en a que cinq. Troisième remarque, Je fais une grande faute depuis que j'ai commencé à parler, et cette faute consiste à parler du monde comme s'il était un monde unique. Et c'est une erreur fondamentale. Je le fais parce que c'est plus facile pour raisonner, mais en réalité, si nous étions confrontés à un monde des conflits uniques, ça serait plus facile à penser et à gérer. En réalité, on est confronté à des mondes différents. Et je parle souvent à cette époque personnellement de concurrence des temps. Je pense qu'il y a au moins dans notre monde aujourd'hui, mais une fois là encore, une fois aussi, là je caricature bien entendu pour me faire comprendre, je pense qu'il y a au moins trois temps et trois mondes à gérer au niveau des conflits. Il y a le monde qui est le plus simple, que je qualifierais de postmoderne, c'est le nôtre. Je dis postmoderne pour avoir l'air intelligent naturellement, disons que c'est le nôtre. C'est un monde qu'on qualifie parmi les chercheurs de débellicisé, au moins psychologiquement, c'est-à-dire que dans nos têtes, la guerre n'occupe évidemment pas la place qu'elle occupait dans la tête de nos grands-pères ou arrière-grands-pères de 1914, grâce au ciel et à quelques modalités d'organisation humaine aussi. Un monde débellicisé... Un monde qui pourtant concentre l'armement, ne vous laissez pas vendre que ce sont les émergents qui contrôlent la majeure partie de l'armement à la surface de la planète, c'est totalement faux naturellement. Les États-Unis représentent encore à peu près 45% des dépenses de défense dans le monde, en gros, ce qui fait quand même beaucoup. C'est un monde débellicisé dans les têtes, c'est-à-dire un monde qui n'aime pas la violence, un monde qui pourtant concentre encore une grande partie de l'armement de la planète. Mais c'est un monde où l'usage de la violence est avant tout conçu comme une technique pour éviter l'usage d'une violence plus grande. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise la violence, l'explication qu'on donne, c'est qu'on utilise la violence pour ne pas avoir à utiliser plus de violence. Pas avoir à en supporter éventuellement, mais ne pas avoir à utiliser plus de violence. On élaborera plus tard si vous voulez. Le deuxième monde, c'est ce que j'appellerais un monde moderne. En gros, c'est le monde des rivalités d'États qui se survivent. La compétition réelle entre États demeure dans un certain nombre de zones de la planète. Si vous voulez voir tout près de chez nous, souvenez-vous que l'une des frontières les plus fermées du monde, c'est la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc. Mais disons que les rivalités d'État, en perspective, se dessinent plutôt dans la zone asiatique, par exemple, hein, au fur et à mesure de la réaffirmation des puissances, de la réaffirmation des concurrents sur un certain nombre d'îles, sur un certain nombre de ressources énergétiques, etc. C'est un monde donc où la compétition potentielle et réelle demeure, et c'est un monde, je le répète, où le combat pour les ressources, le statut de puissance régionale, etc., a de beaux jours devant soi. Et puis il y a un monde prémoderne, ce qui n'est d'ailleurs pas un jugement moral, hein, un jugement purement technique, un monde prémoderne où la violence est immaîtrisée et... où elle demeure très largement un creuset de construction sociale, un creuset de construction individuelle et de construction sociale. En gros, ce sont les espaces où les autorités politiques, les autorités gouvernementales, les autorités étatiques n'arrivent pas à imposer un système de référence politique central, et où donc il faut bien avoir d'autres systèmes de référence, et l'usage de la violence sert de cette référence. Alors, la complication, c'est que ce monde, naturellement, ou ces trois mondes, ne sont pas aisément décidables. Mais que ces trois mondes se superposent dans une sorte de peau de léopard, c'est-à-dire par tâche. Et qu'ils se chevauchent en particulier du fait de deux facteurs, la diffusion technologique et la diffusion médiatique. Autrefois, nous avions affaire à des espaces qui étaient clairement distincts. Il y avait des endroits où on se battait, il y avait des endroits où on se battait pas. Comme les endroits où on se battait étaient souvent loin, en particulier du temps colonial, comme c'était sur des continents très éloignés de nous, après tout, on pouvait continuer à se battre, et puis voilà. La diffusion technologique fait que les conflits se désenclavent. En gros, le 11 septembre, je suis pas obsédé par le 11 septembre, mais c'est une fois encore quelques décennies de types qui tapent sur le World Trade Center parce que les Américains occupent l'Arabie Saoudite, qui ont été recrutés en France et en Allemagne et en gros entraînés en Afghanistan. Enfin, je caricature un peu, etc. Bon, Il y a donc une diffusion à la fois par la circulation humaine, par la diffusion technologique et par la diffusion médiatique qui impose un peu partout des conflits qui autrefois se seraient localisés. Autrement dit, il y a des mondes qui correspondent à des logiques conflictuelles différentes, mais ces mondes se chevauchent et il y a circulation entre les trois. Alors, dernière ou avant-dernière remarque, pour nous, occidentaux développés, ce monde des conflits, il va nous toucher comment? En gros, il me semble que les conflits les plus prévisibles dans les décennies à venir résulteront d'un croisement assez précis entre les effets de décomposition d'un certain nombre de sociétés et l'affirmation de nos intérêts de puissance. Autour de nous, en particulier si on pense à l'Europe, il y a beaucoup de sociétés politiques qui se décomposent, si jamais on peut penser qu'elles ont été composées à un moment, qui se décomposent. Ça génère des ferments conflictuels, bien entendu. Et quand ces ferments conflictuels rencontrent nos intérêts de puissance, il y a conflit. Nos intérêts de puissance, alors les sociétés qui se décomposent, ben c'est tout ce qu'on appelle les états faillis, les états faibles, les états effondrés. Alors il y a des catégories extrêmement différentes. Et puis l'affirmation de nos intérêts de puissance, ben, ça peut être des intérêts, j'allais dire, objectifs et presque propres. Hein. C'est la liberté de circulation des biens, la liberté du commerce, la liberté d'approvisionnement. La liberté pour nos citoyens de ne pas se faire enlever et assassiner, etc. Hein, nous avons des intérêts, j'appelle ça des intérêts de puissance, mais en fait, ce sont des intérêts de collectivité humaine, tout simplement. Bien entendu, il y a une autre hypothèse qui est que nos intérêts de puissance se heurtent aux intérêts d'autres puissances étatiques, et en particulier de puissances émergentes, et en particulier en Asie. Je dois dire que ça m'apparaît peu vraisemblable en tant que facteur de conflit militaire dans l'avenir, tout simplement parce que pour quelques décennies encore, nous maîtrisons l'affrontement militaire classique, nous autres puissances occidentales riches. Ça durera peut-être moins longtemps que nos impôts, mais pour les décennies à venir, il n'y a pas grand problème pour maîtriser, j'allais dire, l'affrontement militaire sur des champs de bataille relativement classiques. Ça se discute, bon, enfin, c'est ce que je pense. Il me semble donc que le risque de conflit le plus évident concerne des conflits asymétriques, pourris, sans front, sans espace d'affrontement bien défini ou dessiné, avec peu de formes opérationnelles de référence classiques, avec des stratégies politiques très asymétriques, etc. Hein, l'un des grands problèmes qu'on a, mais Pierre Servet y reviendra certainement tout à l'heure, ou on y reviendra dans la discussion, des grands problèmes qu'on a quand on intervient en intervention extérieure, comme on dit, c'est un problème de positionnement politique. Pour nous, ce sont toujours des guerres à intérêt limité, et pour la plupart des acteurs locaux, ce sont des guerres à intérêt fondamental, essentiel ou intégral. Donc il y a une asymétrie dans le positionnement politique, par exemple en Afghanistan, qui fait que nous ne savons pas bien quels moyens employer et quel objectif de guerre définir. Donc risque de conflit asymétrique, pourri, et vraisemblablement une myriade de formes qui est en particulier dictée par la diversité des acteurs. Alors le paradoxe de nos moyens militaires, mais je fais juste une remarque là-dessus, c'est que nos moyens militaires correspondent fort peu à ces hypothèses. Alors vous avez qu'à me dire, ben on n'a qu'à en changer les moyens militaires. Ben non, on ne peut pas en changer, pour des tas de raisons. D'abord parce que ça coûte très cher et que les armées et les ensembles militaires sont des moyens extrêmement rigides à modifier, bien entendu. Et puis surtout parce que ces moyens militaires classiques nous servent à exclure les hypothèses classiques. C'est-à-dire que le grand paradoxe de nos moyens militaires, c'est qu'on les garde, on garde l'essentiel de nos moyens militaires parce qu'ils servent à exclure un certain nombre d'hypothèses et que donc on sait qu'ils ne servent à rien, en résumé, hein, et qu'il faut qu'on développe d'autres moyens militaires parallèlement en des temps de vaches maigres budgétaires, mais ceci est un autre problème. Alors je vais conclure ma cinquième remarque, vous savez bien qu'en conclusion on rassemble toujours les remarques qu'on n'a pas pu faire avant. et qu'il serait trop long de traiter, je vais vous proposer 5 pistes de réflexion. Ce sont des pistes de réflexion parce que, bien entendu, je n'ai pas de méthode plus intelligente que celle des autres pour gérer cette situation complexe que je viens d'essayer de définir devant vous. Alors, ces 5 propositions sont les suivantes. Premièrement, vous allez voir que ce n'est pas très original, hein. Premièrement, bien entendu, il faut lutter pour élargir la part du droit, tout en sachant que le droit n'est pas si juste que ça et que, de toute façon, il demeurera partiel. Et en tant que juriste, au moins partiellement de formation, je sais pertinemment que, naturellement, ça n'est pas le droit qui crée l'histoire, mais c'est l'histoire qui crée le droit. Ça n'est pas le droit qui organise le politique, c'est le politique qui crée le droit. Et d'ailleurs, heureusement, by the way, à propos, si vous permettez. Il n'empêche qu'il faut élargir cette part du droit parce qu'elle régule, elle civilise une partie au moins des relations internationales. Et que si on y renonce, bien entendu, on en revient à l'état, non pas de nature, mais à l'état de jungle. Deuxième direction de réflexion, bien entendu, il faut renforcer l'organisation d'une coexistence globale entre les puissances du premier rang. C'est pas la peine d'imaginer qu'on va organiser un gouvernement mondial avec autour de la table les 194 ou 196 États membres de l'ONU. C'est un fantasme inatteignable. J'allais dire d'ailleurs heureusement, parce que ça serait quoi ce gouvernement ? Mais entre puissances de premier rang, qui ne sont pas encore toutes définies aujourd'hui, entre puissances de premier rang, il me paraît raisonnable d'organiser une sorte de concert des grandes nations, si je puis dire. Alors, est-ce que ça passe par une réforme du Conseil de sécurité ? Est-ce que ça passe par un G8, G20, etc., qui serait enfin doté de capacités décisionnelles, etc. ? Je n'en sais rien. Mais ça passe forcément par une réflexion de ce genre. Troisième direction, il faut que nous ayons des stratégies de réinstallation du politique. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, naturellement, hein, mais ce dont ont besoin les sociétés pourrissantes dont je parlais tout à l'heure, qui sont au premier chef les sociétés conflictuelles, c'est naturellement de structures politiques. Alors, quand je dis que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça veut dire, entre autres, que ça n'est pas facile de définir le politique dont elles ont besoin, ces sociétés, hein. Parce que naturellement, il faut des élections, mais la grande illusion de ces 20 dernières années consiste à penser que parce qu'il y a des élections, on est sauvé. Par exemple, en Irak, hein, il y a des élections, un gouvernement à peu près légitimement élu, et and so what ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et dans la plupart des pays d'Afrique, il y a des élections à peu près régulières, hein, à la mode africaine, mais à peu près régulières, ça ne change rien. Bon, ce qu'il faut, c'est restructurer politiquement les sociétés, parce que seule la production de politique, je n'ose même pas dire la production de démocratie, mais la production de politique est susceptible de sortir ces sociétés, j'allais dire, de la juxtaposition des affirmations identitaires qui conduisent au conflit. Quatrième direction, il n'y en a que 5 et je m'arrête tout de suite. Naturellement, je n'ai pas parlé d'idéologie. J'aurais pu en parler. J'en ai pas parlé parce qu'il me semble que les idéologies sont des interprétations secondes de rapports de force réels, mais c'est peut-être une interprétation bienveillante. Ce à quoi nous devons veiller, bien sûr, c'est aux éventuelles cristallisations idéologiques qui sont des cristallisations de renfermement et donc des cristallisations de conflit. Nous sommes dans une phase de, à la fois, je l'ai dit, d'ouverture et de renfermement. Quand on pense à nos pays, et en particulier à l'Europe, je pense que nous sommes dans une dynamique de renfermement, de rétraction, sur un certain nombre de références, sur un certain nombre de frontières, etc. Pour le moment, c'est pas encore trop grave. S'il y avait une cristallisation idéologique, de quelle nature, j'en sais rien, hein. Pas le nazisme des années 30, je pense pas qu'on va en revenir au fascisme italien ou au nazisme des années 30, mais s'il y avait une cristallisation idéologique qui aggravait les choses, ici ou ailleurs, bien entendu, ça pourrait être grave. Enfin, dernière phrase, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais cette fois c'est la vraie, bien entendu. Je pense qu'il y a un domaine que nous devons surveiller prioritairement, j'allais dire comme le lait sur le feu, c'est la vulnérabilité, les vulnérabilités spécifiques des sociétés technologiquement développées. Si nous avons à nous défendre contre quelque chose, il est fort peu vraisemblable que ce soit contre une invasion à nos frontières. Il est même fort peu vraisemblable, contrairement à ce qu'on nous raconte ici ou là, que ce soit quelques missiles iraniens qui nous tombent sur le coin de la figure ou du territoire. C'est extrêmement peu vraisemblable. Parce que ça serait idiot de la part de l'attaquant, naturellement. Ce qui serait beaucoup plus intelligent, ça serait de s'attaquer à nos vulnérabilités spécifiques qui sont essentiellement des vulnérabilités technologiques. Un certain nombre d'auteurs appellent ça des moyens de désorganisation massive. Il est tout à fait vrai que nos sociétés modernes ont des vulnérabilités particulières. Alors tout le monde pense bien entendu aux cyberattaques en particulier. Ce ne sont pas les seuls. Le cybermonde n'est pas la seule vulnérabilité, mais je pense que c'est une dimension des conflits non armés, mais de déboucher des conflits armés qui devraient être étudiés de très près. Voilà, j'ai été trop long et donc je m'arrête sans autre forme de procès. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dominique. Sans autre forme de procès, Pierre Servent. Alors, que faire?
Que faire? Vaste question. Bonjour, bonjour à tous. Merci au Centre Sèvres d'organiser ce cycle. Je pense que c'est vraiment important. Je crois que personne n'aime la guerre, en tout cas dans cette salle, mais la guerre, elle nous aime beaucoup. Donc, on a plutôt intérêt à essayer de comprendre comment ça marche. Le monde change, la guerre aussi. Alors c'est vrai, c'est faux. C'est faux dans la mesure où malheureusement l'être humain développe depuis très très longtemps une grande imagination pour tuer son prochain. Et que finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil quand on étudie la guerre aujourd'hui. Parce qu'on arrive toujours à retrouver des exemples dans le passé de choses qu'on présente comme nouvelles. Ce qui est vrai quand même, et je m'adosse totalement à la présentation de Dominique David, il y a quand même des changements, des mutations sur lesquelles je reviendrai. Il y a des changements technologiques aussi que j'essaierai de vous expliquer. Alors avant d'aborder quelques points, juste une précision biographique par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. La guerre, j'ai essayé d'aller la voir au plus près comme journaliste quand j'étais à la Croix et que j'ai couvert en partie la guerre du Liban dans les années 80. J'étais notamment à Drakkar. Quand nous avons eu plus d'une cinquantaine de parachutistes tués dans un des premiers attentats du Hezbollah. Et après, quand je suis passé au monde, je suis allé dans le Golfe pour la première guerre du Golfe. Par la suite, voulant me rapprocher encore plus de cette réalité, je suis parti comme officier en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, en Afrique notamment. J'étais un des officiers de la force Licorne. En 2004, j'ai quitté le territoire quelques semaines avant la mort de 9 de mes camarades tués à Bouaké par l'aviation du président Gbagbo. Voilà, donc ces sujets sont à la fois pour moi des sujets de réflexion intellectuelle et puis, évidemment, j'ai peut-être une limite dans mon regard, c'est que c'est aussi quelque chose d'un peu charnel pour moi. Un petit mot pour commencer, sans vous saouler avec des définitions rasoirs, sur guerre asymétrique et guerre dissymétrique. C'est des termes dont vous entendez parler souvent dans la presse, ça a été évoqué pour l'asymétrie, juste pour vous expliquer ce que c'est. Quand la France, le 11 janvier de cette année, à la demande de Bamako et de la communauté internationale, frappe des colonnes de pick-up, de djihadistes, deux colonnes de pick-up qui se dirigent vers le sud, du Mali de façon à pouvoir prendre des villes ou en tout cas étendre sa sphère d'influence. La France frappe avec les hélicoptères de combat des forces spéciales. Le premier tué français, c'est un pilote d'hélicoptère des forces spéciales. Les avions de combat qui viennent du Tchad. À ce moment-là, on parle de conflits dissymétriques parce que vous avez deux forces de même nature, mais pas de même dimension. De même nature, parce que vous avez des colonnes de pick-up avec de l'armement conventionnel. Ils foncent pour conquérir du territoire. Les Français utilisent de l'armement conventionnel. Mais il y a dissymétrie parce que la France a une surpuissance par rapport aux djihadistes. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak au début de la guerre d'Irak de 2003, où la coalition autour des Américains est entrée en Irak contre une armée irakienne assez pitoyable, qui tenait pas la route, vous avez eu une phase de guerre dissymétrique, une surpuissance d'un côté, une sous-puissance de l'autre militaire. Bon, évidemment, la sous-puissance est écrasée de la même façon que nous avons écrasé en assez peu de temps les colonnes de pick-up et puis qu'on est remonté vers le nord. Donc là, c'est ce qu'on appelle la dissymétrie. Mais derrière, très souvent, vous avez donc l'asymétrie qui apparaît et qui construit un certain nombre de paradoxes de la guerre que je vais évoquer. L'asymétrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faible militaire qui a pris une branlée va chercher à reprendre la main par d'autres moyens. Et ces moyens, c'est absolument tout. Il n'y a aucune limite dans la recherche de ces moyens pour frapper le fort militaire, l'atteindre soit dans ses soldats sur place, soit atteindre les opinions publiques de ces pays qui sont des pays démocratiques avec une opinion publique, une presse, du droit, etc. Même si parfois, on l'a vu avec les Américains, évidemment, dans les conflits asymétriques, l'asymétrique va essayer d'attirer au maximum les forces militaires d'un pays démocratique de plus en plus vers le mal, pour le conduire lui-même à intégrer une partie de la psychologie du mal que le combattant asymétrique a. Même si c'était évidemment un peu sommaire, parce que si on se lançait ici dans un débat philosophique sur le mal et le bien, on pourrait refaire un autre colloque et mon propos serait peut-être contestable. Mais pour vous expliquer comment un peu les choses fonctionnent. Alors, l'asymétrie, tous les moyens, c'est évidemment les attentats kamikazes, les bombes de bord de la route, c'est la manipulation de femmes ou d'handicapés pour être eux-mêmes porteurs de bombes kamikazes, c'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce que j'ai vu apparaître, parce que j'ai fait trois séjours en Afghanistan comme officier, et j'ai vu la contamination du théâtre afghan par rapport à ce qui se passait en Irak. En Afghanistan, il n'y avait jamais d'attentat suicide. La notion de kamikaze est contraire à l'honneur des Afghans, et c'est une technique qui a été importée des conflits de l'Irak. Peut-être pour vous faire... donc voilà, la symétrie, c'est tout est possible. De toute façon, les forces insurgées, terroristes, djihadistes, enfin tous les noms que vous voulez leur donner, n'ont pas d'opinion publique, n'ont pas de parlement, n'ont pas de presse libre et n'ont pas de système de contrôle. Donc ce que je disais souvent sur l'Afghanistan, c'est que sur 100 civils afghans tués, il y en avait, disons, une trentaine tués par l'OTAN, par les forces de l'OTAN involontairement, ce qui est une catastrophe, parce que c'est pas le sens de la mission, et vous en aviez 70 tués très volontairement par les talibans, et quand je dis tués, c'est souvent découpé avec les morceaux mis en relief de façon à terroriser. Puisque vous savez que dans la symétrie, l'objectif du faible militaire, ça va être de terroriser et de faire perdre complètement son contrôle. Dominique l'a dit tout à l'heure par rapport au 11 septembre, les Américains ont pété un câble complet sur cette affaire et ils ont creusé leur propre tombe, ils ont creusé la tombe de leurs soldats en Irak et ils ont totalement déstabilisé cette région du monde. L'Irak aujourd'hui est un pays en éclatement qui fournit des combattants djihadistes les plus radicaux, les plus odieux à la Syrie à côté. Voilà. Donc, vous voyez comment avec l'asymétrie, on arrive à faire perdre son calme, son contrôle à celui qui est fort. Peut-être un témoignage personnel rapide. Lors de mon troisième séjour en Afghanistan en 2011, la situation s'était fortement détériorée, c'est-à-dire que les talibans étaient parvenus à reprendre certaines zones. Il y avait de plus en plus d'attentats kamikazes, ce qu'on appelle les IED, les engins explosifs, de fabrication artisanale, qui font peser sur le fort militaire une pression psychologique très grande, parce que justement, vous ne savez pas à quel moment ça va se passer, et je rappelle souvent que, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, un grand pourcentage des forces de la coalition en Irak, les forces de l'OTAN, de l'ISAF en Afghanistan, ces soldats, ceux qui sont morts sans avoir vu de combattants, sans avoir tiré, sans avoir été engagés au feu. Ils sont morts dans leur véhicule blindé en pétant sur 300 kilos d'explosifs ou des obus de 155 assemblés ou parce qu'un taxi les a doublés en disant bonjour pour les attendre au carrefour d'après et leur péter à la figure. Ce qui est évidemment tout à fait triste pour les morts, dramatique pour les blessés et traumatisant pour les survivants qui ont vu leurs camarades à côté dans le MV américain avec les deux jambes coupées, etc. Donc, quand je suis allé pour la troisième fois en Afghanistan, moi je sers comme officier au commandement des opérations spéciales, donc on se déplace peu en véhicule militaire, donc on devait faire une liaison entre Kaboul et Bagram, qui se trouve au nord, dans un véhicule civil, de façon à pouvoir être plus discret, et pas avoir à utiliser les convois militaires qui montaient régulièrement, qui assurent une protection, mais qui en même temps, évidemment, attirent le regard. Donc véhicule civil anglo-saxon, avec mon pilote à droite, moi à gauche, des sacs de sable, évidemment, sur le fond de la bagnole pour éviter les effets d'explosion d'un IED. Je mesure 1m92, je pèse 100 kg. Mon équipement comme officier n'est que de 20 kg, entre le gilet pare-éclat, le casque lourd, mon armement, etc. Il est de 40 kg pour un soldat, avec le FAMAS, l'ensemble de la dotation en armement, etc. Donc, je passe à 120 kg. Et quand je rentre dans le véhicule, je touche en haut et en bas. Et, bon, et donc, en gros, on pousse la porte pour que j'arrive à rentrer dedans. Donc, vous rentrez dans le véhicule, vous commencez à monter vers Bagram, et c'est là où la symétrie commence dans la tête. C'est que moi, je suis là-dedans, et je me dis, purée, si ça pète, comment je fais pour sortir? Comment je fais pour me dégager? J'arrive à peine à atteindre mon arme sur le côté, je n'arriverai pas à bouger. Alors, sur le chemin, vous avez des explosions, non pas dues à des attentats, mais parce que l'OTAN fait péter des stocks d'explosifs. Bon, donc, tout d'un coup, il y a un peu d'adrénaline qui monte. Vous arrivez à des endroits où vous avez un camion-citerne en travers de la route qui est en train de se vider de son essence, avec plein de bagnoles autour, en train d'essayer de pomper l'essence qui sort. Vous vous dites que s'il y a un gars qui allume une cigarette là-dedans, ça va quand même être sportif. Donc, vous dégagez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors que moi, j'appartiens à une force militaire considérable, il y a 41 pays en Afghanistan à ce moment-là. Quand vous allez au PC opération de la force de l'ISAF, ça ressemble à un centre de traders. C'est-à-dire c'est une sorte de petit amphithéâtre. Tous les officiers d'état-major sont reliés par informatique en fonction des J, c'est-à-dire des bureaux qui structurent un état-major. Vous avez des grands écrans qui permettent de suivre en direct certaines opérations quand un TIC a été déclenché, Troop in Contact. Ça veut dire que des troupes, quelque part en Afghanistan, sont accrochées par les talibans. À ce moment-là, on suit ces événements-là et il y a tout de suite l'envoi de forces, d'appui aérien, d'hélicoptères pour dégager ces troupes en contact. Donc vous suivez tout ça, vous appartenez à une coalition. Quand vous êtes sur l'aéroport de Kaboul, vous partez, vous dites bonjour à des Portugais, à des Espagnols, les Américains reviennent, les Allemands sont en train de faire la fête. Bon, grande puissance. Eh bien vous vous retrouvez dans votre bagnole face au pouvoir égalisateur de la guérilla et en fait, vous êtes dans un combat d'homme à homme et surtout psychologiquement, vous commencez à vous affaiblir. Quand on est rentré de Bagram, qui est une grande base américaine, notamment pour les forces spéciales américaines, donc la route de Bagram à l'époque est refaite aujourd'hui, c'était une route assez large, bourrée de nids de poules, et sur laquelle tout le monde roule dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à certains endroits quatre voitures qui roulent dans le même sens, avec quatre autres qui arrivent en face. Bon, puis au dernier moment, tout le monde s'éclate, passe sur les bas-côtés, un joyeux bordel. Donc à un moment, avec moi, ma voiture, moi, mon pilote, on était très à gauche de la route, parce que c'était la navigation voulait ça, et derrière un dodane, on s'est trouvé face à une colonne américaine qui, elle, remontait après une patrouille sur Bagram. Les gens sont crevés, il fait très chaud, 40 degrés l'été, hein, type remonte, et vous avez en tête de colonne un véhicule blindé avec un mitrailleur de tête, et on s'est retrouvé à quelques centaines de mètres, avec pratiquement en face du tireur de mitrailleuse qui lui est hors du véhicule donc, et qui a tourné sa mitrailleuse sur nous, puisque nous étions une menace. Donc j'ai foutu un coup de coude au pilote, il a évidemment dévié, on s'est dégagé, et juste en passant, j'étais en treillis, je l'ai salué, donc rien, il n'y a pas eu de problème. En Irak, il tirait tout de suite. Il y a eu tellement d'attentats qu'il tirait tout de suite. Donc votre mission, le sens de la mission, évidemment, s'affaiblit, parce que vous tuez une grande quantité de civils, enfin c'est ce que les Américains notamment ont fait en Irak, avec des problèmes culturels, à savoir notamment que beaucoup de soldats américains ne savaient pas que les Irakiens ne parlaient pas tous anglais, pensaient que tout le monde parle anglais, donc tous des problèmes d'incompréhension qui se sont terminés par la mort des familles au checkpoint, plus des incompréhensions culturelles. En Irak, quand vous allez chez des amis, sur le pas de la porte, votre ami sort et fait ce signe pour vous dire « bienvenue, avancez ». Bon, à checkpoint, quand un soldat américain faisait ce signe-là pour dire « arrêtez-vous », la famille avancée, elle était massacrée. La symétrie, c'est tout ce joyeux bordel dans lequel les soldats, nos soldats français de 20 ans, de 18 ans, doivent se dépatouiller pour conduire une mission qui n'est pas une mission de destruction et de guerre. Il n'y a pas de solution militaire à tous ces conflits. L'outil militaire doit être au service du politique, une solution politique, etc. Mais les contradictions de ces guerres, ces tensions, se retrouvent sur tout le monde. le général qui a géré tout ça, mais on parle du caporal stratégique souvent, c'est-à-dire le petit caporal de 18 ans, 20 ans, qui s'il fait le mauvais choix dans l'engagement du feu à tel ou tel endroit, peut créer une crise politique à Paris. Donc, des guerres un tout petit peu compliquées. Dans les paradoxes de ces conflits, on l'a dit, ces conflits font peu de morts. Je viens de faire une spéciale sur France 2 sur le 11 novembre. Le 22 août 14, 27 000 soldats français tués. Grâce à la grande intelligence stratégique de Joffre, 27 000 soldats français tués en une journée. Hein, on est à 300 ou 400 000 morts à la fin de la guerre, à la fin du mois de l'année 14. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces zones-là. En Afghanistan, 88 tués. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui trinquent le plus, ce sont les civils. Hein, 14-18, 25% de civils tués dans l'ensemble des pertes. 40-45, 39-45, 50-50%. Aujourd'hui, c'est 75% de civils qui sont tués dans les conflits d'aujourd'hui. Regardez la Syrie, la Tchétchénie hier, la Bosnie. Pourquoi ? Parce que les combats, ces guerres qui ne disent pas leur nom, se passent notamment au milieu urbain, hein, au milieu des civils, et c'est eux qui prennent, qui dégustent. Et dans l'asymétrie, le combattant asymétrique prend en otage, évidemment, les civils, utilise les civils comme arme de combat, s'en servent comme bouclier, et n'ont évidemment aucun compte à rendre s'ils ont tué des civils. Autre paradoxe, c'est le rapport à la mort. Ça, c'est quand même un grand changement. Alors, il y avait, on me citait les kamikazes japonais, hein, qui se suicidaient, mais ils étaient dans leur avion de combat, en tenue de combat. C'était une force identifiée. Ils utilisaient l'arme kamikaze, qui est évidemment déconcertante, et qui introduisait donc une rupture dans le rapport à la mort. Là, très souvent, dans ces combats asymétriques, Irak, Afghanistan, même le Mali, le sud Liban, quand Israël est confronté au Hezbollah, le rapport à la mort entre des soldats de puissance occidentale démocratique et celui du combattant insurgé n'est évidemment pas du tout le même. Hein. Le chef de section français, américain, israélien, il veut conduire sa mission et ramener tout son monde. Le combattant insurgé, pour utiliser un terme un peu générique, la mort est une récompense. Dans les carrés musulmans que j'ai pu voir, notamment en Afghanistan, le carré des martyrs, de ceux qui sont morts pour le djihad, sont avec des très, très belles décorations, sont fêtés, et vous n'avez aucune famille qui ne va porter plainte pour savoir dans quelles conditions leur fils a été tué au combat. Voilà. Ça a été un des problèmes de Tsahal en 2006, dans les combats au sud Liban, entre les combattants du Hezbollah, très bien entraînés, l'armée de Tsahal, en Israël, pour l'armée israélienne, la préservation de la vie du soldat est essentielle. Du côté des combattants du Hezbollah, c'est avec beaucoup de générosité qu'ils donnent leur sang, qu'ils donnent leur vie. Donc, vous avez une rupture dans ce rapport à la vie et à la mort. Paradoxe aussi, vous vous souvenez peut-être, guerre d'Irak, le président Bush qui débarque en tenue avec un blouson de pilote sur un porte-avions en disant « la guerre est finie, war is over hein ». Et les Américains avaient perdu, de mémoire, je ne sais plus, 200 combattants, peut-être 300 combattants dans cette phase-là. Donc, si je considère que la guerre est finie, après, c'est la paix, normalement, quand on comprend bien. Donc, pendant la paix, les Américains ont eu 4000 tués. Et donc, il y a un tout petit souci. Très peu de morts pendant la guerre, beaucoup de morts pendant la paix. Bon. Ben, c'est-à-dire que l'opération militaire ne termine pas la guerre et que l'asymétrique hein, reprend la main, notamment parce que les Américains, à la recherche d'armes de destruction massive qui n'existaient pas, ont en revanche laissé dans la nature tous les stocks d'armes conventionnelles que l'armée sunnite démobilisée s'est empressée de prendre et avec lesquels, avec des armements très rustiques qui valent pas très cher, ils ont mis au tapis 4000 soldats américains et essentiellement, encore une fois, par IED, par engins explosifs, par attentats kamikazes, etc. On a Dominique a tout dit sur le fait qu'il n'y a plus vraiment de ligne de front. La ligne de front, c'est un peu comme les montres de Dali, hein, c'est très plastique, ça se transforme. Et puis aussi, autre élément qui joue dans cette asymétrie, c'est qu'il y a une illusion dans la puissance technologique. Alors, la puissance technologique est très importante. Je me félicite qu'on ait des satellites, des avions de combat, des drones pas assez. Tout ça est absolument nécessaire. Mais ça ne suffit pas dans les combats d'aujourd'hui sur le terrain, parce que l'asymétrique trouve des tas de parades pour contrer l'hypertechnologie. Deux exemples pour la, justement cette guerre très intéressante que je développe dans mon livre sur les guerres modernes racontées aux civils et aux militaires. Israël, dans la première phase des combats de 2006 contre le Hezbollah, qui tire à partir de lance-roquettes qui sont planquées dans la banlieue, dans le sud du Liban, lance-roquettes qui évidemment sont planquées dans des garages civils à proximité de bâtiments. Donc dans une première phase, les Américains, parce que les pilotes américains sont tous formés aux États-Unis, et donc ils vont matraquer parce qu'on a des techniques qui permettent de trajectographie, qui permettent de savoir partir du point d'arrivée d'un missile, d'où il est parti, on rentre dans le calculateur, vous balancez des bombes, vous détruisez le point de départ. Mais dans le point de départ, il y a non seulement le véhicule lance-roquettes du Hezbollah, mais vous avez tout un immeuble avec 50 familles, etc. Donc les Israéliens tapent, et puis au bout d'un moment, ça ne suffit pas, et donc ils sont obligés de rentrer au sol. En rentrant au sol, là, ils sont confrontés aux soldats du Hezbollah. Le premier boulot d'une force militaire moderne, quand on rentre en guerre, vous faites tout pour que votre adversaire ne puisse plus entendre, plus parler, plus communiquer. Donc vous brouillez ces communications. Et les puissances modernes ont des tas de moyens pour brouiller les moyens de communication. Israël l'a fait vis-à-vis du Hezbollah, qui avait des moyens très sophistiqués. Le Hezbollah avait des drones. Ils avaient aussi des moyens de communication sophistiqués. Les Israéliens ont brouillé ces moyens de communication. Sauf que, petit problème, le Hezbollah, qui avait construit tout un réseau de tunnels dans le sud Liban, a doublé son système très sophistiqué par du téléphone filaire de type 14-18. Hein, celui que vous pouvez acheter aux puces, qu'on a eu quand on était au Louveteau, hein, on tirait les lignes pour pouvoir parler, etc. Le Hezbollah a fait pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Israël, pour couper ce moyen de communication, ben là, il faut que vous introduisiez des soldats dans les tunnels. Et là, c'est combattant contre combattant. Et le combattant de Tsahal, avec toute la puissance militaire de Tsahal, c'est combattant contre combattant. Et notamment combattant qui veut garder la vie contre combattant qui n'en a rien à faire de perdre la vie. Donc, vous avez cette complexité de ces combats. Et nos combattants français, américains, anglais, britanniques, etc., qui sont évidemment d'un univers culturel différent, qui ont des comptes à rendre, se trouvent, qui parfois sont obligés d'appliquer des résolutions diplomatiques dans des cadres de guerre très complexes, mouvants, où vous êtes obligés de tuer quelqu'un un jour et de négocier le lendemain avec son chef de groupe. C'est des choses qui sont passées en Somalie, notamment, confère la chute du Faucon Noir côté américain, mais les Français étaient présents aussi dans cette guerre. Enfin, autre point très frappant, qu'est-ce que c'est qu'un insurgé aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un combattant asymétrique aujourd'hui? C'est un homme qui a dans une main une Kalachnikov, une arme de poing, une grenade, qui vaut ça vaut pas très cher. Et de l'autre, il a une clé USB, un BlackBerry ou un smartphone aujourd'hui, une caméra vidéo. C'est-à-dire que c'est à la fois un mix de ce qu'il y a de plus classique ou de plus barbare. On décapite quelqu'un au couteau, mais on le met sur Internet. Donc c'est là, au point de croisement de ce qu'il y a de plus ancien dans l'horreur et de plus moderne dans l'utilisation des moyens de communication modernes. Vous savez que la France a perdu en août 2008 10 combattants à Ouzbine, qui était un peu un traumatisme, parce que tout d'un coup les Français ont découvert que ce qu'on faisait là-bas, c'était pas que distribuer des bonbons aux enfants. La faute d'ailleurs aux politiques qui ont toujours manqué de courage pour dire les choses français, expliquant, voilà, surtout quand on ramène 1000 hommes de plus dans une zone pourrie comme Ouzbine, le fait qu'on allait avoir des pertes, c'était évident. Donc manque de courage pour expliquer aux Français, voilà ce que nous faisons là-bas, pourquoi on va y être, et nous aurons des pertes. Mais ça, on ne le fait pas. Donc tout d'un coup, dans ce paysage qui est très calme dans nos esprits, vous avez tout d'un coup 10 morts au combat, c'est le grand étonnement. Et quand on a reconquis la position, récupéré les corps, en fait, une partie des corps des soldats français étaient alignés, parce qu'ils avaient été filmés. Et ce point-là me permet de faire la transition avec mon dernier point, qui est important, sur lequel je veux attirer votre attention, qui s'appelle « guerre, mensonge et vidéo », c'est-à-dire l'importance aujourd'hui dans ces conflits asymétriques de la manœuvre médiatique, de la manœuvre psychologique, ou du combat sur la toile, sur Internet. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le combattant insurgé, c'est pas nouveau. Je vous donnerai deux exemples historiques rapides. Depuis longtemps, essaie d'appliquer les principes ce général chinois, 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu, qui est un peu mis à toutes les sauces, mais dont les enseignements sont très intéressants, et qui dit que le fin du fin dans la guerre, c'est de battre son adversaire sans engager le combat, c'est-à-dire de pouvoir le faire imploser de l'intérieur, notamment par des moyens psychologiques, des moyens de déception, des moyens de destruction de ses forces de conviction. Évidemment, un des objectifs pour ces combattants-là, confrontés à des forces, encore une fois, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont des comptes à rendre, c'est de nous atteindre, nous, vous, l'opinion publique, d'essayer de vous toucher. Deux exemples historiques, avant d'en venir à des choses très concrètes, comment ça se passe sur le terrain, cette bataille médiatique, cette bataille de l'image. Deux exemples. Il y a un grand cinéaste soviétique, spécialiste de la propagande, mais un très très bon cinéaste, qui s'appelle Roman Karmen, qui est oublié aujourd'hui, mais il y a des films qui ont été faits sur ce personnage, qui a notamment filmé dans les rues de Moscou un des grands défilés organisés par Staline, des prisonniers allemands faits à Stalingrad et sur d'autres théâtres d'opérations. Staline, qui est passé à deux doigts de la catastrophe, pour bien montrer aux moscovites, aux russes et au monde entier la puissance de l'armée soviétique retrouvée, notamment grâce à la victoire de Stalingrad, a décidé de faire défiler dans les rues de Moscou et de filmer. L'important, c'est de filmer et de montrer ces cohortes de soldats allemands, généraux en tête, prisonniers. Et donc, il dit à Roman Karmen, tu vas me filmer ça, on va mettre ça sur le monde entier. Dans le monde entier, ça va peut-être pousser les Anglo-Américains à faire enfin leur débarquement pour ouvrir un front ouest que j'attends, parce que c'est moi qui porte tout le fardeau. Roman Karmen lui dit, d'accord, mais laisse-moi faire, donne-moi carte blanche. Donc Staline lui dit, ok. Et Roman Karmen va faire deux choses. La première, c'est qu'il va donc placer les caméras, c'est un cinéaste sur le long du trajet, mais il va, en positionnant les soldats de l'armée rouge qui gardent, il y a 300 000 soldats allemands, prisonniers, plus ou moins en guenille, il va contraindre ces soldats dans les grandes avenues de Moscou à défiler, je commente le 14 juillet sur France 2, on défile en ligne, droit. Il les fait défiler en S. Donc il va créer au milieu de l'avenue un parcours en S, et en positionnant les gardes, et donc ce flux de soldats allemands va être obligé de se couler dans ce mouvement en S, qui va être filmé. Alors pourquoi ? Et parce que quand vous voyez des images, vous n'avez pas l'impression que ce sont 300 000 soldats qui défilent, vous avez l'impression que toute l'armée allemande a été capturée. Il y a un effet visuel de saturation de l'image qui donne une démultiplication de ce sentiment-là. Premier élément de manipulation de l'image, mais il y en a un second, c'est que Roman Karmen a demandé aux gardes de ces Allemands de ne pas leur donner à manger pendant 48 heures. Donc les Allemands n'ont rien bouffé pendant 48 heures. Et juste avant le défilé, ils ont eu une soupe diurétique. Donc ça veut dire que ces 300 000 soldats, pardonnez-moi l'expression, vont chier pendant tout le défilé, et derrière les caméras vont s'arrêter sur le flot de merde qui a été laissé, avec ces messages de l'Union soviétique. Regardez la grande armée des Aryens, ce qu'ils laissent derrière eux sont des excréments. Donc là vous avez, par la construction de l'image, un impact absolument énorme, donc tout ça a été diffusé. Et vous retrouvez le même Roman Karmen filmant les soldats français de Dien Bien Phu selon le même principe. Il reconstitue deux ou trois jours après la chute de Dien Bien Phu la reddition des soldats français et il les fait défiler en S. Et donc vous n'avez pas l'impression que c'est le corps expéditionnaire de Dien Bien Phu qui défile, c'est toute l'armée française qui a été capturée à Dien Bien Phu. Donc mécanique. Donc c'est des très vieux procédés. C'est pour ça aussi qu'en 68, lors de l'offensive du Tet, Ho Chi Minh envoie des commandos dans Saigon, commando suicide. Il va faire tuer une grande partie de son élite militaire, parce qu'il met ses cadres dans ses attaques commando sur Saigon qui n'ont jamais eu lieu. Certains commandos vont pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Il y a des films d'archives très intéressants là-dessus. Donc c'est un souk pas possible, avec des combats partout. Pourquoi le fait-il, sachant que tous ces combattants vont être tués? Donc c'est une victoire militaire pour le Sud et pour les Américains, qui vont détruire tous les commandos. Mais qui se trouve à Saigon? Les journalistes. Et les historiens américains spécialistes du Vietnam estiment que la perte du Vietnam s'est faite ce jour-là, parce que les images de ces combats sont arrivées sur les pompes du Texan aux 20h à la télévision. Et donc le sentiment de vulnérabilité et de victoire finalement de l'asymétrique sur le puissant s'est répandu, a perturbé les esprits, Et, encore une fois, d'une certaine façon, Ho Chi Minh a sacrifié ses soldats, a perdu militairement une bataille pour gagner une bataille psychologique majeure. Et encore une fois, donc, les spécialistes de l'époque estiment que c'est à partir de ce moment-là que l'opinion publique américaine a commencé à vaciller et à vider finalement le pays de sa substance, conduisant à ce qui s'est passé après pour le Vietnam. Donc, ce sont des mécanismes très anciens et qui sont fortement renouvelés aujourd'hui et qu'on trouve mis en œuvre très concrètement sur le terrain. Plusieurs exemples. Là aussi, combat entre le Hezbollah et Israël. Je vous ai expliqué que les officiers de enfin, les militaires de l'armée de l'air de Tsahal, ceux qui ont été appelés par dérision par les Israéliens, les officiers plasma, c'est-à-dire des officiers formés aux États-Unis sur des écrans plasma et ayant perdu les réalités du terrain dans une première phase. D'où ce que je vous ai expliqué, à savoir les limites de l'hypertechnologie dans ces combats-là. Il y a un moment, il faut aller au sol. Et au sol, donc, le Hezbollah est organisé avec des structures de communication qui sont du même standard que celles que vous trouvez dans des grands groupes. Vous avez des journalistes, ils sortent des communiqués de presse, ils sont sur la toile. C'est vrai pour toute la nébuleuse djihadiste, hein, qui est sur Internet, qui produit des films, etc. C'est pas parce qu'ils sont rustiques, c'est-à-dire qu'ils se battent souvent dans des conditions rustiques avec une Kalachnikov, qui n'ont pas cette technologie et cette capacité à communiquer à haut niveau et avec beaucoup de talent. Un exemple concret, les services de communication du Hezbollah prenaient en compte des journalistes, parce que dès qu'il y a ces conflits-là, un des éléments de ces conflits, c'est que vous avez 300, 400, 500, 1000 journalistes qui débarquent. Et évidemment, ce qu'ils vont répercuter est un enjeu majeur dans ces conflits. Donc le service de communication du Hezbollah organise des tours opérateurs pour les journalistes, surtout les moyens audiovisuels, qui sont ceux qui frappent le plus dans notre monde moderne, pour aller voir les destructions ignobles de l'armée israélienne, de l'aviation israélienne. Donc on emmène ces journalistes sur des sites où vous voyez des décombres d'immeubles, ce qui est tout à fait réel. Il y a certainement des civils en dessous. Et quand les journalistes arrivent, ils débarquent des camions, il y a toujours une concurrence entre les différentes chaînes. Aujourd'hui, tous les journalistes ont des moyens de transmission de l'image extrêmement rapides, là où lors de la guerre du Vietnam, les circuits étaient extrêmement longs pour arriver à faire sortir les bobines du théâtre pour les envoyer aux États-Unis. Et là, quand ils arrivent sur les décombres fumantes, ils voient des femmes en larmes, des vieilles femmes complètement détruites par la douleur. Et alors là, l'image parle. On voit bien que c'est leur famille qui est en dessous, c'est un drame, tout ça. Bon, donc paf. Coco, ça rentre bien dans le cadre, c'est balancé aux 20h, c'est nickel, impeccable. Dans ce groupe de journalistes, 2-3 journalistes anglo-saxons, après avoir fait ça, partent faire un reportage plus dans le nord, et ils reviennent sur Beyrouth un mois ou deux mois après. Ils sont repris en main par une autre équipe de communication du Hezbollah, qui leur dit, bah, écoutez, demain matin, on affrète un bus, les Israéliens ont frappé à tel endroit, etc. On vous amène, on dit, ok, on n'a rien à faire, ils y vont. Ils sont transportés, ils débarquent, et là, qu'est-ce qu'ils découvrent? Des ruines fumantes, un autre endroit, mais les mêmes grand-mères qui pleurent, qui sont là absolument à s'arracher les cheveux. Donc ils se disent, c'est quand même très surprenant, soit ces vieilles grand-mères sont des agents immobiliers, et c'est à chaque fois leur bâtiment qui est frappé par Israël, donc elles vont pleurer sur chacun de leurs bâtiments. Soit elles ont pas de bol, c'est à chaque fois leur famille qui est visée par Israël. Non, évidemment, la troisième solution est différente, c'est que le Hezbollah a procédé à un casting. Il a pris les meilleures pleureuses, celles qui étaient les plus télégéniques, et il les trimballe de point en point. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de destruction et de civils tués. Mais ces groupes-là savent parfaitement quelles sont nos failles, nos faiblesses sociétales, notamment ce que j'appelle le triptyque funeste en France et ailleurs, compassionnel, émotionnel et lacrymal, le fait de tout traiter par l'émotionnel, le compassionnel et le lacrymal, et donc... À partir de ce moment-là, ces différents groupes vont chercher à servir, à nous donner ce qui va nous être utile. Autre exemple qui montre comment les moyens de communication modernes vont guider des opérations de combat dans les combats asymétriques. En Irak d'abord, puis en Afghanistan, les structures d'action psychologique des insurgés, des djihadistes, vont passer des commandes à des groupes de combat. C'est-à-dire qu'ils vont dire, écoute, on a besoin pour terminer notre vidéo sur comment tuer un maximum d'infidèles par les engins explosifs, fabrication artisanale, On aurait besoin, on a monté une séquence où on a toute une succession, je vous parle de choses que j'ai vues, hein, toute une succession d'explosions qui permettent de voir comment nous, le faible, on arrive à détruire des colonnes de blindés, des véhicules, des camions-citernes, etc. Mais on manque d'images de cadavres, notamment parce qu'on n'est pas suffisamment près de l'objectif et que, à cause du troop in contact, tout de suite, des forces ennemies arrivent, on aurait besoin de plus de temps. Est-ce que tu peux nous monter une embuscade qui nous laisse le temps d'aller sur l'objectif pour filmer les restes des soldats américains, anglais, canadiens, qui ont été déchiquetés dans leur véhicule? Donc, comment dépasser, brief et passé, à une structure de commande de militaire, hein, ce qu'on appelle Katiba aujourd'hui au Mali, etc., mais là c'est en Irak, qui va monter son opération, qui n'est pas une opération militaire, qui est une opération médiatique, mais servie par... Et donc ça va donner effectivement le fait, dans ces montages, d'avoir le résultat, c'est-à-dire le caméraman qui va descendre de la colline après l'attaque, qui va filmer les cadavres en morceaux, les types qui se traînent sans jambes. Tout ça est monté, tout ça est diffusé, vous allez pouvoir les voir au Pakistan, vous pouvez aller les voir dans certains cafés en Afrique, dans le Sahel, etc. Évidemment, pour vendre le djihad. Tout ça est monté avec des chants, etc. Et ça dit quoi? Ça dit, grâce à la foi d'Allah, nous, les faibles militaires, nous tuons le fort. Nous dominons le fort. Hein. C'est pour ça aussi que Mohamed Merah filme tous ses assassinats. Il a une webcam sur le ventre, il filme tout de façon à pouvoir monter après, faire un montage et le diffuser sur la toile djihadiste. Alors il y a des choses beaucoup plus sophistiquées que j'ai vues aussi, c'est véritablement des manuels de montage d'embuscade, de construction d'IED, enfin, des trucs très techniques, comme ferait une grande entreprise pour faire du partage des best practices. Et donc vous voyez comment monter des attentats sophistiqués, des IED leurres pour attirer la force ennemie sur le leurre et puis après faire exploser un deuxième IED, etc. Tout ça est diffusé. Dernier exemple, je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines. Dernier exemple qu'on a vu à la fois dans le grand attentat de Bombay 2008, donc quelques commandos qui pénètrent dans Bombay, des objectifs, le grand hôtel de Bombay, les gares, les restaurants, le centre culturel juif. Cette attaque fait écho à Nairobi, quelques semaines, Kenya, centre commercial. La méthode est absolument la même et elle a été formalisée par ACMI, enfin par Al-Qaïda. Vous trouvez ça dans les manuels d'Al-Qaïda d'action psychologique. Donc pour terroriser, l'important, ce n'est pas de tuer 1000 personnes et que cela soit vu par une, mais c'est de tuer une personne et de faire en sorte que ça soit vu par 1000. Pour terroriser le maximum de personnes. Alors là, ils en ont tué plus, parce qu'à Bombay, c'était 200 personnes, et à Nairobi, 70 ou 80, je crois. Mais quel est l'objectif? Ce n'est pas l'opération militaire. L'opération militaire, elle est très faible. Elle met en œuvre quelques commandos qui, la plupart du temps, se font tuer. Le coup de départ, c'est mineur. Mais la terreur répandue est maximale, parce que les objectifs visés sont des objectifs internationaux. Vous êtes sûr que dans un grand centre commercial, un samedi à Nairobi, vous allez toucher une quantité de pays considérable? Vous êtes certain, quand vous attaquez à Bombay, le grand hôtel de Bombay, où vous avez souvent des journalistes, tout le monde va répercuter l'événement, et donc vous avez ces opérations de terreur qui vont nous fragiliser, notamment nous, occidentaux repus, parce que nous ne sommes absolument pas armés, hein, avec ce triptyque, encore une fois, émotionnel, compassionnel et lacrymal, à analyser ces éléments-là, nous renforcer. Nous sommes des cibles. Ce qui est intéressant sur Bombay, pour vous montrer jusqu'où ça va, tous les commandos de Bombay ont été tués, sauf un, qui a été exécuté après jugement il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur les corps des membres de ces commandos? L'armement classique du terroriste pour tuer un maximum de personnes qui sont désarmées, hein, ils ne tuent que des gens civils, comme au grand magasin à grande surface de Nairobi. Donc là, c'est assez facile, mais il faut avoir un maximum de munitions, de grenades pour tuer un maximum de personnes, tenir aussi dans le centre culturel juif. Mais surtout, on a retrouvé sur eux, à l'époque, des BlackBerry. Et donc, les BlackBerry ont été analysés. Ils révèlent quoi? Ils révèlent qu'en fait, en direct, leur commandement arrière, branché sur les télévisions internationales, leur donne du renseignement. Puisque tout se raconte sur les télévisions. Donc, on leur dit, par exemple, ceux qui sont retranchés dans le centre culturel juif, les forces spéciales indiennes sont en train d'arriver, mais elles ne sont pas encore sur place, donc ne tuez pas encore vos otages. et puis on leur donne le top pour tuer les otages quand on sait que l'assaut va être imminent. Et puis on leur donne également un retour impression psychologique en disant c'est super, maintenant mettez le feu à l'hôtel, etc., etc. Donc les moyens modernes aujourd'hui de communication permettent à la symétrique de frapper le monde entier. Et c'est ce que vous retrouvez au Mali quand la France réussit à sortir 4 otages d'Arlit, on est tous à la joie, et que vous avez 2 journalistes d'RFI qui sont tués derrière, même si l'objectif n'était peut-être pas de les tuer tout de suite, mais le résultat est là. Et moi, je passe à ce moment-là des journées entières sur les plateaux de télévision, sur le thème, mais Serval n'a servi à rien, mais comment ça se fait, etc. C'est extrêmement fascinant de voir à quel point une opération remarquable, qui ne résout pas tout, hein, il n'y a pas de solution militaire, il faut utiliser la force à certains moments, mais c'est toujours des processus de développement, c'était peut-être le troisième D d'ailleurs, sur des démobilisations, désarmement, développement. Ce sont des processus longs. Et pour conclure, où se situent nos fragilités, c'est celle que je vous ai décrite, dans une méconnaissance de ces mécanismes, y compris chez les grands responsables politiques. Quand Nicolas Sarkozy se précipite en Afghanistan parce que nous avons eu des morts, les soldats qui sont là-bas français ont honte. Pourquoi ? Parce que notre pays est celui qui a été le moins frappé des grands pays. Et leurs camarades américains, britanniques, canadiens, quand ils ont des morts, leur chef d'État ne réplique pas pour faire du compassionnel. Parce que ce chef d'État n'a pas eu le courage d'expliquer aux Français quelle était la donne et de nous aider à nous armer face à ce qui va se passer. Donc, quand on n'est pas courageux sur le plan politique, on surfe sur l'émotionnel, le compassionnel. Et les militaires français en ont ras-le-bol de ce genre de choses. Quand on signe un contrat avec l'armée, qu'on soit d'active ou de réserve quand on est d'accord pour servir en OPEX, on signe avec son sang. Voilà. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, tout ce qui se passe en France sur l'accueil, l'accompagnement des familles est très important. Au Canada, quand un soldat tué, il y en a eu beaucoup en Afghanistan, revient, il y a une chaîne humaine civile qui se forme de l'aéroport où arrive le corps jusqu'au lieu des obsèques. C'est-à-dire il y a un appel qui est lancé dans la presse, etc. Donc, à l'heure du déjeuner, les gens sortent, etc. Et vous avez une chaîne humaine. Ça, c'est très important. Mais arrêtons de faire du compassionnel sur les têtes d'opération. Les militaires ne le demandent pas. Dernier point, et j'arrête vraiment là. Nous avons un énorme problème avec le temps. Les djihadistes, la nébuleuse djihadiste, Al-Qaïda, c'est un patchwork de forces différentes, plutôt en perte de vitesse. Ils ont quand même sérieusement dégusté ces derniers temps, non seulement par la mort de Ben Laden, mais ils sont frappés un peu partout, donc sont plutôt en perte de vitesse. Mais à cause de ce que je vous ai décrit, ils ont la capacité de donner le sentiment de l'ubiquité et de la permanence, même s'ils sont détruits. Quelle est leur force ? C'est le temps. Un djihadiste aujourd'hui est convaincu que dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, la planète sera salafiste et qu'elle sera débarrassée des croisés, des chrétiens, des juifs, des chiites et de tous ceux qui, chez les sunnites, ne sont pas salafistes. Ils ont cette conviction absolue. Qu'est-ce qui se passe de notre côté ? Et j'ai de plus en plus envie d'étrangler mes interlocuteurs quand ils me posent la question. Alors, Pierre Servant, c'est l'enlisement. Voilà. L'enlisement, c'est quand une opération militaire ne se déroule pas comme 24 heures chrono, les séries américaines, là où en 24 heures, héros dénoue la situation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces combats-là vont prendre du temps, parce qu'ils s'appuient, Dominique l'a dit, sur des problématiques aussi de sous-développement, de zones grises, de fracturation. C'est vraiment un peu comme un cancer. Le cancer adore les parties molles. Il se développe de façon fulgurante, malheureusement, dans les parties molles. Et donc, c'est la même chose. Et donc, il faut que nous apprenions le sens du temps et que nous faisions nôtre ce très, très vieux proverbe égyptien qu'on trouve sur des pyramides. L'homme pressé est déjà mort. Merci.
Merci beaucoup, Pierre Servant, et à nos deux intervenants. Il est 11h30, je vous propose tout de suite que nous passions à des questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Si quelqu'un veut prendre la parole, sinon nous allons amorcer la pompe.
Oui, question ou conviction ? Oui,
une conviction, on va... Madame, au fond.
Manuel Al-Qaïda.
Dans toutes les bonnes bibliothèques. Non. Non, ce sont évidemment des documents qui sont récupérés par les services secrets et les forces spéciales. Les Français, notamment, en ont récupéré beaucoup à Tombouctou, puisque les groupes de combat d'Al-Qaïda, qui étaient descendus vers le sud, ne sont pas repassés par Tombouctou, ils sont remontés tout de suite vers l'Adrar des Ifoghas, leur sanctuaire dans le nord, parce qu'ils en prenaient plein la figure. Donc ce qui fait que les forces spéciales, qui sont les commandos, qui agissent par petits groupes, qui sont en avant, au sol, si vous voulez, de nos forces conventionnelles, sont arrivées très tôt à Tombouctou et ont pu récupérer dans tous les postes de commandement, si vous voulez, d'Al-Qaïda, une grande quantité d'ouvrages et beaucoup d'informatique. Ils sont informatisés, donc des clés USB, etc. Et c'est dans ces documents qu'on retrouve notamment les manuels de base d'Al-Qaïda de différents types de combats, notamment le combat psychologique. Donc vous n'y avez pas accès, vous, il faut que vous lisiez nos livres. Mais les journalistes en ont trouvé certains. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de documents que certains journalistes de Libération, etc., sont arrivés à Tombouctou aussi derrière les forces spéciales, qui, eux, tout de suite après ça, sont montés plus haut vers le nord, Tessalit, Kidal, etc. Et Al-Qaïda avait laissé tellement de documents, s'attendait tellement pas à cette attaque, que les journalistes eux-mêmes en ont trouvé des lettres de l'émir d'Akmi, Abdelmalek Droukdel, qui se trouve, lui, qui est planqué quelque part dans les montagnes algériennes, et qui communiquait avec ses forces d'Acmi au Mali. Et les journalistes ont trouvé, par exemple, des documents où Droukdel passait un savon à ses combattants, notamment après la prise de Tombouctou et la destruction des lieux saints, hein, la mosquée des 333 saints musulmans, en leur disant « Mais vous êtes en train de, pardon, de déconner, parce que vous allez vous foutre à toute la population à dos pour imposer la charia, le djihad, etc. Il faut y aller beaucoup plus doucement pour retourner les populations. Donc vous avez aussi des manuels politiques, d'action politique, etc. » Voilà. Donc, vous ne pourrez pas vous lire ces documents qui, évidemment, ne sont pas accessibles, sauf si vous rentrez à la DGSE.
On va prendre plusieurs questions, si plusieurs apparaissent. Monsieur et monsieur au fond, je vous en prie. Dominique David, si vous voulez réagir en premier, et Pierre Servant.
Oui, merci madame. Sur vos questions, 1995, j'allais dire, je n'excuse personne, hein, nous ne savions pas. C'est-à-dire que nous étions dans un autre temps. Pierre Servant a parlé de la difficulté à mesurer le temps selon les adversaires et les analyses. Je pense qu'en 1995 et tout au long des années 90, nous sommes, j'allais dire, nous, c'est-à-dire nous, occidentaux, nous sommes sur le petit nuage de la liquidation de la bipolarité et de l'Union soviétique. Effectivement, on a déjà connu un échec en Yougoslavie, on a pris déjà une claque en Somalie, mais on est quand même dans cet espace de temps où on s'imagine que les conflits deviennent marginaux, qu'ils relèvent d'opérations de police internationale, qu'ils vont pouvoir être maîtrisés par une ONU qui est de plus en plus active, des opérations multinationales, etc. Et ça n'est qu'au début du XXIe siècle qu'on va se rendre compte que l'accumulation de toutes ces nouvelles manifestations conflictuelles, en réalité, représente une véritable mue conflictuelle. Alors, ça représente une... Alors, je n'excuse rien, mais simplement, face à un fait, on n'en comprend pas forcément les implications, c'est ce que je veux dire. Alors, sur cette mue conflictuelle, pour moi, la difficulté de l'appréhension du monde conflictuel aujourd'hui, c'est que nous devons répondre à un éventail d'hypothèses qui est large comme ça, alors que, par exemple, dans les années 80, il était extrêmement étroit. Dans les années 80, les armées françaises avaient à répondre, en gros, à une hypothèse ennemie. Soit les Cosaques arrivaient à l'est de l'Europe, soit il fallait envoyer quelques chasse-pots en Afrique pour mettre bon ordre, et avec 100 types, on avait un effet à peu près efficace. Alors, en gros, c'était ça les hypothèses. Bon, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, On a des hypothèses extrêmement larges, sans qu'il soit véritablement possible de supprimer tout un pan de notre dispositif militaire. C'est ça le problème, hein. Le mot nucléaire, par exemple, n'a pas été prononcé aujourd'hui. Alors, il y a un débat sur le nucléaire. Finalement, est-ce que le nucléaire sert à quelque chose, etc. Bon, l'argument, c'est que, évidemment, aujourd'hui, on dissuade personne, mais que... Who knows? Qui sait pour l'avenir? Est-ce que l'hypothèse d'un combat encore interétatique a complètement disparu? Donc, est-ce qu'il n'est pas raisonnable de garder finalement la totalité du spectre? Ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout garder, tout produire, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous avons effectivement à, statistiquement à répondre à l'heure actuelle à ces conflits asymétriques que Pierre Servan a très bien défini. Mais nous avons aussi à garder en tête la quasi-totalité des autres hypothèses, ce qui rend évidemment la planification stratégique extrêmement difficile, et encore plus la planification budgétaire, mais ça c'est autre chose. Monsieur, sur la justice pénale internationale, je suis, mais là ça n'engage que moi, je suis extrêmement partagé. Quand on ne sait pas quoi dire, on distingue les principes de la réalité. Donc, au niveau du principe, comme disent les étudiants de Sciences Po, au niveau du principe, je suis pour, et au niveau de la réalité, ça marche pas. Enfin, je caricature. Sur le principe, il est évident, bien entendu, que c'est un pas politique, pour ne pas dire moral. Hein. C'est un pas politique au sens large du terme politique de géant que d'avoir créé le concept de responsabilité pénale internationale, hein, qui affirme que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi à partir du moment où on est couvert par la légitimité politique ou la légalité politique. Donc ça, c'est un pas extrêmement important. C'est un pas qu'on avait avancé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans des circonstances etc. Et puis c'était pour une fois, si je puis dire, ou pour deux fois plus exactement avec le procès de Tokyo. Je pense que le fait que ce soit inscrit dans le droit international est quelque chose d'extrêmement important. Alors maintenant, puisque vous êtes juriste, vous savez bien que le droit international, c'est un animal très particulier, hein, parce que le droit international, c'est des oripeaux troués. Le droit international, sépare le droit international du droit interne, c'est que le droit international, il est appliqué quand les gens qu'il concerne sont d'accord pour qu'il soit appliqué, en gros. Hein. Quand un citoyen français naît, on lui demande pas s'il est d'accord pour appliquer le code de procédure pénale. Bon. Dans le domaine international, le droit international ne couvre que certains thèmes, certains espaces, et en gros, l'accord des acteurs qui sont concernés est nécessaire. Donc c'est un droit parcellaire. Bon. Donc je trouve qu'il est parfaitement positif d'élargir l'espace des parcelles. Je suis obligé de constater, comme vous vraisemblablement, que la légitimité de ces tribunaux aujourd'hui est éminemment contestée, et d'ailleurs contestable. Alors, je ne suis pas en train de défendre le président de tel ou tel État qui veut pas aller devant le tribunal, mais enfin, quand les Africains expliquent qu'il n'y a à l'heure actuelle devant le Cour pénale internationale que des Africains ou que des Noirs, ils n'ont pas tort. Bon, c'est pas seulement une mesure statistique. Bon, je ne dis pas que le Cour pénale internationale s'est mis dans la tête de ne poursuivre que des Noirs, des Jaunes ou des Arabes. Évidemment que non. Mais le résultat de ce droit international parcellaire à l'heure actuelle, c'est qu'il se prend les pieds dans les logiques de puissance. Tout simplement. Hein. Donc, si vous voulez, je ne peux vous dire que cela... J'allais dire, quand on est un être un peu responsable, on ne peut pas être contre ce progrès qui est que l'incrimination pénale internationale est un progrès politique et moral. Hein. Mais concrètement, j'ajoute même que ça peut être extrêmement dangereux. J'espère qu'il n'y a pas d'espions du Quai d'Orsay dans la salle. Mais enfin, quand la diplomatie, et que vous ne me citerez pas, quand la diplomatie française explique qu'il faut traduire de toute façon à la fin de la guerre en Syrie Bachar el-Assad devant la Cour pénale internationale, diplomatiquement, à mon avis, c'est une manœuvre absolument catastrophique. Absolument catastrophique. Comment voulez-vous que le type négocie avec vous si de toute façon vous dites à la fin de la négociation « je te mets aux flics ». Bon, et encore les flics, c'est, bon, non mais vous riez, mais c'est absolument fondamental. Tout le monde sait que dans ma jeunesse j'étais un manifestant, enfin tout le monde le sait pas, mais je le dis, et tout le monde sait que l'une des techniques policières majeures pour dégager une place de Paris des manifestants, c'est de laisser une sortie. Si vous entourez la place de flics, les gens se battent. Par contre, si vous laissez une rue ouverte, bah, les gens ils rentrent chez eux, ils prennent le métro. Hein. Dans l'après 68, c'était quand même bien connu. J'ai l'âge d'avoir connu ça. Donc, si vous voulez, l'incrimination pénale internationale est une bonne chose, mais sa légitimité à l'heure actuelle est contestable et contestée. Et troisièmement, il faut faire très attention à l'utiliser comme moyen diplomatique parce que ça peut être extrêmement dangereux. On avait d'ailleurs connu ça en Libye avant la Syrie. Je ne suis pas en train de dire que Bachar el-Assad est un saint, naturellement.
Donc, il y a une question sur les médias, le fonctionnement des médias. Alors, le problème aujourd'hui dans les médias, c'est la multiplication des médias, c'est la contamination d'Internet à travers la vitesse et le fait que sur Internet, la parole experte, entre guillemets, ou la parole de votre premier copain. Enfin, j'allais dire, c'est pareil. Non, c'est même pas pareil. Vous avez préféré ce que votre copain, qui n'a jamais étudié le problème, vous raconte dans votre communauté Internet, plutôt que écouter un peu ce que va dire une personne qui travaille depuis 30 ans sur le sujet, qui peut se tromper, parce que les experts se trompent aussi. Mais donc, il y a ce mouvement-là qui a contaminé, si vous voulez, le cinquième pouvoir Internet, a contaminé le quatrième. Moi, qui suis un ancien journaliste de la presse écrite, je ne reconnais plus du tout cet univers, ce qui fait qu'il y a une pression de l'information instantanée sur l'ensemble du système qui dévoie complètement le système. Et par ailleurs, les médias ayant des gros problèmes financiers, vous avez une déspécialisation. Pourquoi je passe quand il y a une grosse journée avec une grosse actualité défense, je vais faire dans la journée une douzaine de médias différents, commençant à 7h du matin sur Europe et en terminant à soir 3, en ayant fait une douzaine d'interviews dans la journée. C'est parce qu'il n'y a plus personne comme spécialiste des questions, enfin plus personne, représentation, on en est très peu sur les questions géostratégiques, géopolitiques, et sur les questions militaires et des conflits, encore moins. Donc évidemment, ayant des spécialisations des journalistes, le réflexe de pas mal de journalistes, c'est d'en revenir à ce que je dénonce, c'est-à-dire une approche par le sentiment, c'est-à-dire que c'est la voix basse du sujet. On le voit sur les problématiques d'otages, nombre de conneries qui peuvent être racontées sur et contre lesquelles je me bats, du style les comités, etc., la mobilisation permet de faire libérer les otages. C'est une sottise noire, comme si les preneurs d'otages, qui en général dans leur vie ont déjà étripé des centaines de personnes, pouvaient avoir la moindre sensibilité à des comités parisiens qui disent c'est scandaleux, etc., ou qui s'adressent aux preneurs d'otages en disant soyez gentils avec... Ils n'en ont rien à foutre. Ça ne veut pas dire que pour le soutien des familles, ce ne soit pas important. Mais ça n'a non seulement aucun impact sur la libération des otages, ça conduit souvent d'ailleurs à les garder plus longtemps parce qu'ils valent plus cher, parce que les preneurs d'otages surfent sur Internet, voient ce qui passe et voient la valeur des otages. Mais c'est très difficile d'introduire de l'analyse, de la rationalité, du recul, de l'historique face à ce mouvement-là. Néanmoins, beaucoup de journalistes essayent de bien faire leur métier. J'ai enregistré hier une émission sur BFM Radio qui s'appelle Good Morning Weekend avec Fabrice Lundy, qui passe en ce moment, là, où nous parlons. J'étais avec Antoine Sfer. Sur une heure, on arrive sur l'Égypte, la Syrie et l'Iran à poser un certain nombre de choses. La presse écrite continue à faire du très bon boulot. Lisez la presse écrite. Il y a énormément de choses qui sont faites dedans. Quelques émissions comme C'est dans l'air, alors, évidemment, j'y participe, donc je suis parti pris, mais qui essayent aussi de faire leur boulot. Et dernier point positif, ces problématiques que j'exprime, en plus dans les rédactions que je fréquente, parce que même si j'ai des abonnements à certaines, j'en vois beaucoup, donc ils sont sensibles à ces sujets-là. Et vous savez, au début de l'année, nous avons eu une opération de la DGSE pour libérer notre agent Denis Alex qui était en Somalie. Cette opération s'est mal terminée par la mort de l'otage et par la mort de deux membres du commando de la DGSE. C'est une très grosse opération, très difficile, très courageuse. Les Chebabs, qui sont aussi des champions de l'intox et de la communication, ont photographié, parce que malheureusement, un des corps d'un agent de la DGSE n'a pas pu être ramené, ce qui est quelque chose d'extrêmement douloureux pour les membres de ces commandos-là. Et les Chebabs ont photographié évidemment le corps du gars, son armement, etc. Et on balançait ça sur la toile. Et on même fait des tweets avec ça en direction du président de la République. Et toutes les rédactions ont été inondées de ces images-là. Et il se trouve que moi, à ce moment-là, à cause de cette actualité, j'ai fait beaucoup d'émissions. Et très souvent, les rédacteurs en chef, etc., me disaient, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur expliquais dans quoi ça rentrait comme type d'opération. Eh bien, aucun média n'a passé ces photos. Donc, je leur expliquais à la fois, en termes d'affaiblissement de notre posture, de blessures très graves pour la DGSE, je leur dis qu'ils sont les mecs qui iront vous chercher quand vous serez en otage au Mali ou ailleurs. Et donc là, les médias ont été très responsables. Donc, c'est un mélange à la fois d'un énorme fouillis et d'interrogations de beaucoup de journalistes, etc., qui essayent de bien faire leur métier, mais qui souvent sont complètement emportés par le flux d'informations, les chaînes de télé en direct, etc., en continu. Voilà. Et moi, très souvent, parce que je passe maintenant régulièrement sur BFM Télé, très souvent, je leur dis « non, je viens pas ». Non, non, c'est de la bouillie pour les chats, les informations sont complètement... J'ai aucun élément sérieux là-dessus, je ne vais pas vous raconter des cracks, etc. La première annonce de libération de Moulin Fournier, moi je connais bien l'Afrique, j'ai servi comme officier en Afrique, je leur ai dit, attendez, une source africaine, non, tant que l'Elysée n'a pas dit qu'ils sont libérés, ne faites pas une spéciale là-dessus. Ils sont partis, surtout on est partis sur ce truc-là, et c'est pris les pieds dans le tapis. Donc il y a du bon, du moins bon, lisez la presse écrite, regardez les bonnes émissions de télé. Le 11 septembre, enfin ce que vous avez dit sur Nairobi, etc., là aussi, une chose intéressante, c'est les limites de nos sociétés où on pense que par l'hypertechnologie, on va tout résoudre. Non, l'essentiel, c'est l'être humain. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avant le 11 septembre? Les différents services de renseignement américains avaient tous les éléments pour savoir qu'un attentat majeur à partir d'avions détournés allait se passer, notamment grâce aux renseignements français et britanniques. Pourquoi les Américains n'ont rien fait? C'est que compte tenu de l'hypersophistication des services informatiques, du cloisonnement des différents services, personne n'avait une vue générale de la picture, des renseignements qui étaient donnés. Et donc, en fait, personne chez les Américains, et comme ils ont déspécialisé aussi la CIA et un certain nombre de services dans ceux qui connaissaient ces réseaux-là, où ça demande du blaire, le fait d'avoir traîné, de parler la langue, etc., vous n'aviez plus à la CIA de personnes, très très peu, qui parlaient arabe. Etc. Donc, ils n'ont pas pu voir ce qui allait se passer par défaut d'analyse, de croisement et d'intelligence de situation. Dernier point, par rapport à ce que disait Dominique, qui est très juste, nos sociétés développées sont très paradoxales. C'est-à-dire qu'on veut tout, mais on veut souffrir pour rien. Donc, on veut une défense qui fasse tout, papa-maman, du nucléaire, du stratégique, des drones, des machins, on veut des soldats, etc. Mais on ne veut pas dépenser l'argent qu'il faut pour. Et voilà. Et on est en permanence dans le principe de précaution. C'est-à-dire que s'il arrive un pépin, il faut un responsable. Et le responsable, c'est qui? C'est le notable. C'est celui qui est notable au sens générique du terme, c'est celui qui est en position de responsabilité. Il est déjà coupable parce qu'il s'est passé quelque chose de mal. Alors que les militaires sur le terrain, on sait que nous, le quotidien, c'est des problèmes tout le temps. Vous agissez en cadre non conforme, donc ça fait partie de la vie. Quand vous rentrez en France, vous voyez tout le monde pleurnicher dès qu'il y a le moindre pépin. Donc on est au cœur de nos contradictions sociétales. Et encore une fois, ceux qui rêvent d'un grand djihad planétaire connaissent parfaitement toutes ces faiblesses et nous attaquent. Je termine par là, vous avez des sites djihadistes qui utilisent nos débats parlementaires, qui sont évidemment un peu truqués et transformés, pour montrer qu'en fait, pardonnez-moi, nous sommes des couilles molles. Et pour montrer donc aux apprentis djihadistes que de toute façon, avec la foi d'Allah, la volonté... de l'énergie et l'envie de se sacrifier, nous serons tous balayés par cet élément-là. Voilà, il faut avoir conscience de ça.
On va prendre deux dernières questions. Il y a monsieur à gauche et monsieur au fond. Merci.
Les mafias. Non, je crois que vous n'avez pas entendu là.
Oui, je vais commencer par votre question, monsieur Pierre Servant, a certainement des choses à dire. Premièrement, il y a multinationalité et multinationalité. Quand c'est la France et le Royaume-Uni, aidés par les États-Unis qui interviennent, par exemple, c'est une multinationalité sérieuse. parce que ce sont des armées qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont des matériels interopérables, qui se connaissent, etc. Bien entendu, là, vous faites allusion à la multinationalité large, si je puis dire, en particulier celle qui a essayé de se mettre en place dans les années 90, dans les opérations de l'ONU, par exemple, hein, ou dans les opérations militaires que je qualifierais de molles, comme en Afghanistan, par exemple. Hein. Alors, effectivement, là, ça ne marche pas. On a rêvé dans les années 90 de non seulement d'opérations multinationales larges quant au nombre de participants, mais extrêmement intégrées jusqu'à un niveau de base, etc. Et on pensait qu'il y allait vraiment avoir des armées, enfin je caricature, mais des armées multinationales. Or ça ne marche pas, pour des tas de raisons, les raisons d'équipement que vous avez citées, des raisons d'objectifs politiques qui sont différentes, des raisons de hiérarchie, ne vous en faites pas, je ne révèle aucun secret, mais quand un militaire français se bat en Yougoslavie et qu'on lui demande de faire quelque chose d'opérationnel, en réalité, il réfère à une double hiérarchie. Il réfère formellement à la hiérarchie de l'ONU et il réfère réellement à la hiérarchie française à Paris, naturellement. Hein, ne vous faites aucune illusion, bien sûr. Donc ces opérations multinationales, effectivement, ne fonctionnent pas. D'ailleurs, aujourd'hui, les grandes puissances, entre guillemets, et je ne mets aucun poids moral dans ce terme de grandes puissances, les grandes puissances participent très peu, voire pas, aux opérations multinationales de l'ONU. Il y a deux endroits où les Africains ont quasiment le monopole. C'est un pour passer devant le tribunal pénal international et deuxièmement pour participer aux opérations multinationales de l'ONU. Hein, je caricature, mais c'est à peu près comme ça. Et quand la grande presse parle des opérations de l'ONU en Afrique, elle parle essentiellement du regroupement de moyens d'États africains, pour lesquels je n'ai absolument aucun mépris, mais sur la compétence militaire desquelles on peut quand même entretenir équipement et compétences militaires, quelques doutes. Donc, vous avez raison. La multinationalité donne de la légitimité, mais techniquement, les professionnels de l'art militaire, si je puis dire, se défient beaucoup de ces opérations multinationales. Deuxièmement, monsieur, les mafias, ben, j'en ai pas parlé tout simplement parce qu'il fallait bien délimiter le sujet, et puis que les mafias ne sont quand même pas, jusqu'à présent, directement productrices de conflits armés internationaux. Bon, je dis directement, elles sont indirectement productrices de ces conflits armés internationaux, d'abord par leurs sources de financement, car ces conflits coûtent cher et une bonne partie de l'argent gris ou noir sert bien entendu à entretenir ces conflits, et deuxièmement parce qu'elles peuvent ici ou là instrumentaliser des conflits armés qui existent. Jusqu'à présent, à ma connaissance, Pierre Servant aura peut-être à ma connaissance, je serais incapable de citer un conflit armé international d'importance qui ait été directement créé et suscité par des mafias. Ceci étant, l'instrumentalisation dans les deux sens, l'instrumentalisation d'un certain nombre de combats au Sahel ou en Somalie, etc. En Somalie, c'est pas des combattants de la liberté, hein, les types qui détournent les navires, hein, faut quand pas exagérer. Hein. L'instrumentalisation dans les deux sens, bien entendu, existe, et puis ça va aller de pire en pire, bien sûr. Alors, je ne parle pas des conflits du Caucase, parce que là, le rôle de la mafia russe est un peu plus compliqué et on n'a pas le temps.
Deux mots, ce phénomène des mafias, enfin, je rejoins tout à fait ce que Dominique David dit, c'est un phénomène important. Au Sahel, dès qu'on gratte la couche djihadiste, vous retrouvez très souvent une aspérité mafieuse. Vous avez des réversibilités, vous avez des deals qui sont passés entre des katibas et des groupes mafieux. On va passer commande pour l'enlèvement, pour l'assassinat, etc. On avait ça aussi dans les pays de l'Est, la mafia russe aussi allait commettre des attentats dans des anciens pays satellites de l'Union soviétique, payés par des groupes politiques ou éventuellement par des États. Donc c'est un vrai phénomène. Et en tout cas, au Sahel, ça c'est vraiment un problème sérieux parce qu'il y a des risques d'enlèvement, de revente après à des groupes politiques. Je ne sais pas entre les mains de qui réellement se trouve le père Georges, mais voilà, on a ces phénomènes qui rendent les choses très très compliquées. Alors, ce que vous dites sur la multinationalité, c'est très très juste. À la fois, c'est important pour l'affichage, mais alors sur le terrain, c'est un casse-tête terrible. Dans mon livre sur les guerres modernes, je donne un témoignage du général français PY, qui a commandé à Kaboul notamment, et qui devait avoir une dizaine de nationalités différentes. C'est infernal, parce que chaque nationalité a ses caveats, ses règles d'engagement. Et quand un chef d'État ou de gouvernement vient voir un peu ses troupes et rencontre le général Pi, à chaque fois, chacun lui dit « Bon alors, vous n'oubliez pas mon général, vous n'utilisez pas mes soldats dans telles conditions, je suis en période électorale, donc pas un mort. Alors vous avez les Allemands qui vont être très encadrés sur le plan syndical, donc on fait pas la guerre après 18h, je raconte des bêtises. Vous avez après les Turcs, les temps de prière se sont respectés, donc il ne faut pas les engager à ce moment-là. Telle autre nation, non, vous les mettez pas en hélicoptère, c'est trop dangereux, il y a trop d'accidents, etc. Et lui, il est obligé de faire sa mission sur la protection de Kaboul et du Grand Kaboul avec des règles d'emploi. Et effectivement, il n'y a pratiquement que les Français, les Anglais, les Américains, les Canadiens qui arrivent à être un peu tout terrain, tout temps, etc. Juste un mot sur Ousby, nous avons perdu 10 soldats. J'aime beaucoup les Italiens et je ne veux pas les caricaturer, mais la France prenait derrière les Italiens qui en fait s'étaient bien gardés d'aller dans les zones où il y a eu les talibans. Bon, et donc quand la France est allée après pour pousser, pour vraiment repousser les talibans les plus loin, ils sont effectivement tombés sur du dur parce que les gars ils étaient pépères chez eux depuis des mois ou des années. Vous aviez le contingent turc, le contingent turc n'a aucune perte par IED, par engin explosif. Alors, évidemment, le croissant, et surtout les véhicules turcs, alors c'est un élément, mais parfois on se demandait si les plans n'étaient pas donnés pour qu'il n'y ait pas de problème, et en contrepartie, les Turcs n'allaient pas chercher les talibans dans les zones où ça les gênait. Donc c'est une complexité terrible. Et en même temps, c'est assez, je vous ai donné cet exemple de Kaboul, qui était vraiment étonnant de voir, notamment pour les pays européens, parce que sur les 41 pays membres de l'ISAF, il y avait pratiquement, en dehors des quelques pays neutres de l'Union européenne, tous les autres étaient présents. Donc, vous avez aussi un kaléidoscope de cette présence européenne, mais avec une très grande difficulté, voire une impossibilité de fusion ou de rapprochement, et puis des pays qui, pendant longtemps, ont vécu à l'abri du parapluie américain et n'ont aucune envie de faire la guerre. Et surtout pas dans des pays compliqués comme l'Afrique. C'est pour ça que la France s'est retrouvée assez seule au Mali, avec quelques soutiens logistiques, mais la plupart des chancelleries européennes estiment que l'Afrique, il n'y a que des emmerdes à avoir dans ce continent, surtout pas d'opération militaire là-bas, parce qu'après il faut défendre ça devant les opinions publiques qui vont dire « mais comment ça se fait? On a trouvé un charnier à tel endroit ». Alors le gouvernement danois va dire « oui, mais attendez, c'était à 400 km du premier poste de notre pays, on ne veut pas le savoir, vous n'avez rien fait, etc. » Donc très compliqué.
Voilà, le temps passe. Nous aurions encore beaucoup, beaucoup d'autres questions ou de convictions à partager, mais je crois qu'il nous faut respecter les horaires. Mais je pense aussi que notre matinée nous a vraiment bien plongé, bien introduit, grâce à nos deux invités, dans le thème général des enjeux de défense dans le monde contemporain. Alors nous gardons un peu nos questions ou nos convictions que nous n'avons pas pu formuler ce matin, puisque nous aurons l'occasion évidemment tout au long des diverses matinées, de pouvoir approfondir et de revenir sur tel ou tel point. Notre prochaine rencontre sera donc le samedi 14 décembre. En ayant en tête justement ce panorama que nos invités nous ont dressé aujourd'hui, eh bien, nous essaierons de voir si l'armée française est adaptée aujourd'hui à cette nouvelle réalité, quelles ont été ses évolutions, quels sont les moyens, quels sont les choix politiques et choix militaires. Et pour cela, eh bien, de nouveaux experts et officiers généraux viendront nous aider à prendre la mesure de ces questions. N'hésitez pas à parler autour de vous de ces matinées sur les enjeux de défense et puis n'hésitez pas surtout à revenir. Merci de votre présence et merci beaucoup à nos deux invités pour leur contribution ce matin. Bonne journée.